BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Good evening business. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à vous.
Dans l'actualité ce soir, on entend dire que c'est peut-être une question de minute qui pour aller à Matignon, on ne le sait toujours rien. Alors comme on dit, on va continuer à vivre notre vie sur BFM Business, puis on va parler économie, on va parler avec des patrons Edwige.
Absolument, on va parler des Jeux Olympiques parce que je recevrai celui qui est le médaillé d'or, on peut dire ça comme ça, des Jeux Olympiques, c'est le patron de Gélé Evans, Olivier Ginon, qui sera avec nous. Il publie ce soir ses résultats semestriels. Bah, évidemment, je ne vais pas vous surprendre en disant qu'ils sont excellents. Et puis, face à lui, quelqu'un qui appelle un Grenelle du logement, parce que lui, pour le coup, il considère que le bâtiment va de plus en plus mal, s'enfonce dans le rouge. C'est Jean-Christophe Repond, le président de la CAPEB. Il fait demain sa rentrée, mais il sera avec nous ce soir.
Et on débriefera tout ça à 18h30. On parlera aussi de cette menace sur les aides aux entreprises. C'était le grand débat du jour, évidemment. Le Sénat qui se lève à son tour face au risque de déficit public qui s'aggrave et puis grosse réunion chez Volkswagen. La direction ne dément pas du tout la possibilité de fermer des sites. C'est un tabou qui pourrait se lever. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
À tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc, ce budget 2025 qu'on va avoir beaucoup de mal à boucler, on l'a bien compris, et ces infos qui nous disent qu'on réfléchit à aller chercher des milliards d'euros d'économies du côté des aides aux entreprises. Du côté des CCI, du côté du crédit impôt recherche, du côté des taux réduits de TVA. Écoutez la colère ce matin du patron de la CPME, François Asselin, sur BFM Business.
Qui crée la richesse? C'est le secteur marchand. Le secteur marchand, c'est qui? Ce sont les entreprises, ce sont les entrepreneurs. Hein, je vous rappelle simplement une chose. Sondage de la CPME au mois d'avril 2024, c'est récent. Vous avez 20% des entrepreneurs qui vivent avec moins de 1 400 euros net par mois. Hein, ce sont ces risques tout, emmerdés par les risques rien. Les risques rien, ce ne sont pas des personnes, ce sont les normes absurdes, ce sont les règlements inapplicables. Et puis, c'est parfois une politique fiscale qui arrête toute initiative d'entreprendre. Il ne faut surtout pas décourager ceux qui ont cette...
Pas casser l'envie, tout simplement.
Mais bien sûr, pourquoi? Parce qu'on a cette qualité, c'est qu'on est capable de prendre des risques. Et derrière le risque qu'on prend, on emmène les gens. On fait de la création de richesses, on paye des impôts, on fait de la redistribution. Donc si vous commencez à... décourager ceux qui ont cette magnifique capacité de prendre des risques, eh bien, il y aura point de salut pour le pays. Voilà. Ça ne plaisante pas aujourd'hui.
Voilà, François Asselin, le patron de la CPME, ce matin sur BFM Business. Faut-il faire le tri donc dans les aides aux entreprises pour 2025? On en reparlera avec nos experts, bien sûr, tout à l'heure. En attendant 2025, il y a l'actuel budget 2024 qui est donc en train de déraper. On vous racontait hier que d'après Bercy, les déficits pourraient s'élever non pas à 5,1 mais à 5,6% du PIB. Conférence de presse cet après-midi au Sénat du président de la Commission des Finances et du rapporteur LR qui se sont inquiétés tous les deux de l'aggravation de ces déficits. Écoutez Jean-François Husson, le rapporteur LR aujourd'hui au Sénat.
Le solde public serait, d'après la Direction générale du Trésor, de 5,6% du PIB en 2024 au lieu de 5,1% lors du programme de stabilité en avril et, je le rappelle, de 4,4% dans le cadre de la loi de finances initiale adoptée par la procédure du 49.3. C'était il y a longtemps, c'était il y a 9 mois. 9 mois pour une telle dérive et on nous annonce, la même note de la Direction générale du Trésor, 6,2%, c'est-à-dire, si on regarde 4,1 dans le PESTAB pour finir en 2025, à 6,2, ça voudrait dire 60 milliards et 50% d'augmentation de la dérive.
Voilà Jean-François Husson. Jean-François Husson, rapporteur général de la Commission des Finances du Sénat aujourd'hui. La situation est-elle si mauvaise en France? On pose la question parce que figurez-vous que le gouverneur de la Banque de France a dit aujourd'hui au journal Le Point qu'il entendait relever la prévision de croissance de l'économie française pour 2024. Vous savez, pour l'instant, le gouvernement démissionnaire table lui sur 1%. Et alors, puisqu'on parle de pistes pour faire des économies, cette question, faut-il resserrer la vis sur les arrêts de travail des fonctionnaires? Si on pose la question ce soir, c'est parce que d'après une note que BFM Business s'est procurée, Gabriel Attal aurait exigé au début de l'année qu'on se penche sur ce sujet. Caroline Morisseau.
La fonction publique n'a pas échappé à la règle. Avec la crise sanitaire, l'absentéisme a bondi. Selon les derniers chiffres, en 2022, on était en moyenne à 14 jours et demi d'absence par an et par agent. L'enjeu financier est important. Un retour au niveau d'avant-crise permettrait, selon l'inspection des finances, d'économiser 6 milliards d'euros. Pour cela, plusieurs pistes sont évoquées. Passer d'un à deux, voire trois jours de carence non indemnisée, ce qui permettrait d'économiser 174 millions d'euros pour la première option et jusqu'à 289 millions si l'on montait jusqu'à 3 jours de carence. Autre levier, ne plus rembourser 100% mais seulement 90% des salaires en cas d'arrêt maladie, ce qui correspond au taux appliqué dans le secteur privé, même si la majorité de ces salariés sont totalement pris en charge par leur employeur grâce à des accords collectifs. Une mesure qui permettrait cette fois de réaliser 900 millions d'euros pour l'ensemble de la fonction publique. Enfin, l'inspection des finances suggère de renforcer les contrôles et d'instaurer des sanctions.
Les arrêts de travail dans le viseur, les arrêts de travail des fonctionnaires. Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business. 18h04 dans l'actualité entreprise, journée houleuse chez Volkswagen. Après les rumeurs ces derniers jours, vous savez, selon lesquelles le groupe envisagerait des fermetures d'usines en Allemagne, la direction s'est exprimée ce matin devant 16 000 salariés et elle n'y est pas allée par quatre chemins. Justine Vassogne.
Nous avons un an de tout au plus pour redresser la barre. C'est le constat d'Arnaud Antlitz. Le directeur financier de Volkswagen a dû attendre plusieurs minutes avant de pouvoir s'exprimer face au sifflet de plus de 15 000 employés furieux. Le marché automobile européen n'a jamais retrouvé son niveau d'avant Covid, a-t-il expliqué. Pour Volkswagen, cela représente 500 000 voitures en moins, l'équivalent de deux usines, selon le directeur financier. Transition vers l'électrique, concurrence chinoise, la liste est longue pour expliquer les difficultés de Volkswagen. Mais la crise que traverse le groupe, qui vise un plan d'économie de plus de 10 milliards d'euros, n'est pas seulement due à un contexte de marché, selon Daniela Cavallo. La direction ne fait pas son travail, estime la présidente du très puissant comité d'entreprise de Volkswagen. Elle reproche notamment à la marque d'avoir négligé l'hybride. Elle promet une résistance acharnée. Avec moi, a-t-elle prévenu, il n'y aura pas une fermeture d'usine en Allemagne.
Peut-être un tabou qui va tomber chez Volkswagen. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business, 18h06. On va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé aujourd'hui à la Bourse de Paris?
Pas fameux, pas terrible, moins 0,98% pour l'indice parisien, mais on tient les 7500 points. Les volumes d'échanges étaient relativement élevés, mais enfin rien d'énorme non plus, hein, au-delà des 3 milliards d'euros d'actions négociées. Mais une séance qui a été un petit peu compliquée, un petit peu difficile, surtout quand on voit les débouclages qui ont eu lieu, notamment sur le secteur du luxe. LVMH signe la plus forte baisse de l'indice parisien, moins 4,2%. À 642,60 €. Hermès, moins 3,84 à 2081 €. Kering, moins 2,22 248,50 €. Puis dans le même ordre d'idée, Pernod Ricard, moins 2%, 125,25 €. Heureusement qu'on a les valeurs défensives, les valeurs cycliques pour nous aider un petit peu. Sanofi signe la plus forte hausse de l'indice à plus 1,48 €, 105,56 €. Eurofins Scientifique, plus 1,22 € à 51,42 €. Le secteur de la santé vraiment bien entouré. Et puis des valeurs vraiment très traditionnelles, Danone, plus 1%, 64,46 €. Orange, plus 1,05 € à 10,64 €. Donc vraiment un marché défensif, moins 0,98% pardon, pour le CAC 40. 7500 points. L'euro autour d'1,1080 $.
Merci beaucoup Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. On est à la mi-séance évidemment sur le marché américain. Le Dow Jones qui progresse de 0,06%, 40 960. Le Nasdaq, de son côté, qui est en baisse de 0,05%, 17 127. Est-ce que ça va mieux sur Nvidia, Damo, Antoine? Parce qu'hier, on a perdu 10% quand même.
Oui, ça s'est quand même bien retourné. On a commencé la séance en baisse et puis doucement, on est repassé à la hausse. Là, on est à peu près à l'équilibre, hein, moins 0,14%. Alors attention, juste un mot des marchés de manière générale. Il semble s'être passé, hein, ces 48 dernières heures sur les marchés, une sorte de réplique en réduction du 5 août. C'est-à-dire que ça a commencé par une baisse de plus de 4% pour le Nikkei au matin. Le Yen qui arrive sur un plus haut de l'année face au dollar. Débouclage de position, on liquide le luxe, on liquide la tech. Vous voyez, un enchaînement de choses un peu techniques, mais qui ont provoqué un petit peu de remous et donc cette baisse assez marquée du CAC 40. Mais Wall Street semble tempérer l'affaire, hein, ce soir.
Merci beaucoup Antoine. 18h08, la grande interview Edwige Chevrillon. Deux invités au micro d'Edwige. Dans un instant, le patron de J-Elevens, Olivier Ginon, et puis Jean-Christophe Rebron, le patron de la CAPEB. Tout ça jusqu'à 18h30. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Deux invités ce soir. D'abord, il est déjà en studio avec nous, Olivier Ginon, le président de GL Events, le géant de l'événementiel qui est un peu le médaillé d'or des Jeux Olympiques. Bonsoir Olivier Ginon.
Bonsoir Edwige.
Merci d'être là. En plus, vous publiez vos résultats semestriels qui sont forcément excellents. Et ensuite, c'est Jean-Christophe Repond, lui qui est le président de la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat des Petites Entreprises du Bâtiment. Il fait sa rentrée demain, mais il a accepté de venir ce soir. Lui, il s'inquiète de la situation du bâtiment, de la conjoncture, et il appelle, vous le verrez, à un Grenelle du logement pour essayer de sauver justement tout cet artisanat. Olivier Ginon, je disais, vous êtes le roi, le médaillé d'or des Jeux Olympiques. C'est vous qui avez fait les quelques, quoi, il y avait 100 000, 160 000 places de tribune pour les Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques Paralympiques.
Écoutez, ce qui est merveilleux avec ces Jeux Olympiques, c'est d'avoir vu le rebond et l'euphorie de tous les Français quand on a participé à toutes ces animations, ces compétitions. Alors le groupe GL Events, comme il le fait dans de nombreux pays, a réalisé, il y avait 160 000 places de tribune, certes, on en a fait 100 000 avec nos co-contractants, nos sous-traitants. C'est une grande partie de on a parlé de 70%, mais nous n'avons pas installé 70% des jeux.
Oui, alors on a dit, si vous rentrez tout de suite, parce qu'on a dit, c'est GL Events qui a tout raflé, que vous aviez raflé 70% des aménagements temporaires. Alors, c'est vrai ou c'est faux?
Ce qui est vrai, c'est que notre groupe a travaillé, a gagné six grands contrats qui ont été le contrat de Versailles, notamment. Le contrat de Versailles, c'était un travail pendant 2-3 ans, où on a remodelé le parc, on a fait tous les aménagements et on a géré la compétition.
Alors, ensuite, quand on prend... chiffre des 70% est exact ou pas?
Mais les 70%, c'était un chiffre de 70% rapporté au nombre de places de tribune. 70% oui. Globalement, le budget global des Jeux Olympiques, GL Events, on n'a pas fait 70%. Ce qu'il faut savoir, c'est que GL Events a fait, on peut le dire aujourd'hui, puisqu'on publie nos chiffres ce soir, 360 millions d'euros de volume d'activité sur les Jeux Olympiques, avec un apport à de la sous-traitance locale de plus de 190 millions. Ouais. On a fait travailler 90% en sous-traitance d'entreprises françaises, comme on avait voulu le faire et s'était engagé. On a embarqué avec nous toute une partie de la profession et de la filière. On en est très fiers.
Oui, 360 millions, c'est vrai que c'est, ben c'est, pour vous, c'est quand même un contrat en or.
C'est pas le chiffre d'affaires.
Des contrats,
qui a été
six
fait.
Contrats. Oui.
C'est pas le chiffre d'affaires qui a été fait avec Paris 2024, qui est de 260 millions. C'est le chiffre d'affaires qui a été fait globalement sur tous les Jeux Olympiques avec le groupe GL Events.
Ouais.
Mais si vous prenez ce chiffre d'affaires, on a travaillé depuis la construction du Grand Palais éphémère, depuis Versailles, ça a commencé il y a 2-3 ans. On a installé l'année dernière le Broadcast Center au parc d'exposition du Bourget. Donc si vous voulez, c'est un volume d'activité très important, mais qui s'est étalé sur le temps.
Ce qui est bien avec vous, Olivier Ginon, c'est qu'on rentre tout de suite dans le business. Juste qu'on peut quand même dire... est-ce que ce ne sont pas les premiers JO qui sont, entre guillemets, RSE, c'est-à-dire que c'est des tribunes qui sont démontables que vous avez construites. Ce n'est pas des tribunes en béton.
Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que notre groupe, depuis de nombreuses années, travaille sur le fait qu'il faut monter, démonter des actifs, les conserver, les remettre
en état.
Tout est démontable. Tout est démontable. Vous pouvez aller, j'étais ce matin à la place de la Concorde, aller voir la vitesse où ça se démonte. C'est tout fait de tubes d'échafaudage, de tribunes qui vont se remonter ailleurs et qui vont partir sur d'autres événements.
Juste un point comme ça, de mon côté pratique, Olivier Ginon. Elles appartiennent à qui, ces tribunes? Est-ce qu'elles elles vous appartiennent ou elles appartiennent à Paris 2024?
Ah non, mais ces actifs ne sont pas neufs pour tous. D'accord. Certains sont neufs et ont été investis spécialement pour cette opération-là, mais vont resservir pendant les 10 ou 20 prochaines années. Les premières tribunes qu'on a, elles datent d'Albertville 92, pour vous dire. Mais elles ont dû disparaître depuis. Mais je veux dire, on travaille chaque année sur des événements en France et à l'international.
Et alors, du coup, vous avez fait une croissance, c'est ça que vous publiez il y a quelques instants, croissance de 19% pour le premier semestre. Puis du coup, vous revoyez à la hausse vos perspectives sur 2024.
Écoutez, nos perspectives, on peut le regarder depuis le lendemain du Covid, où on était tombé de 1 milliard et quelques à 400 millions. Nos perspectives sont bonnes. Elles ont été extrêmement positives en 2022, extrêmement positives en 2023. Ça sera de même en 2024. On avait annoncé 7% de croissance sur l'année. On sera plus proche et supérieur de toute façon à ce pourcentage qui avait été donné. Les Jeux Olympiques nous ont tirés vers le haut, mais on a aussi le Brésil, on a aussi la Chine, on a aussi notre marché européen, on est présent dans 20 pays et 90 villes, et bien sûr aussi le Moyen-Orient qui nous tire vers le haut.
Et du coup, vous avez aussi en ligne de mire les Jeux Olympiques de Los Angeles, j'imagine.
Ah bah de toute façon, chaque fois qu'il y a une grande manifestation, une ville
là,
qui est choisie,
un savoir-faire qui est français,
s'implante,
oui.
On s'implante et on va proposer nos services. Et on peut remarquer, si vous voulez, que le Los Angeles, on leur a fait la House of America au Palais Brongniart. Ils ont été chez nous, tous les Américains, et ils le sont encore, ils l'ont été pendant 2 mois. Il est évident qu'on essayera et on fera le maximum pour être présent aux États-Unis parce que le marché va être très important.
Alors, puisqu'on est dans les contrats et dans les chiffres, il y a ce fameux Grand Palais éphémère. Donc, qui est sur le Champ de Mars, que vous aviez installé, c'est en 2019, je crois. Et la dernière fois, normalement, il est éphémère, donc par principe, il va disparaître, surtout que le Grand Palais a rouvert ses portes. Et je m'en souviens, vous étiez venu il y a quelques mois, vous m'avez expliqué, il fallait absolument qu'il reste là, parce que c'était un très bel espace. Visiblement, vous n'avez pas été entendu.
Mais vous savez, toutes nos prestations sont éphémères et durables.
Oui.
Donc,
Là, c'est plutôt le éphémère qui l'a emporté sur le durable.
Eh bien, écoutez, on verra quand ça se démontrera. J'espère qu'à un moment donné, certaines personnes comprendront que la destination Paris, que l'attractivité de Paris manque de surface. Et nous, qu'est-ce qu'on dit ? On n'est pas propriétaire du Champ de Mars. On n'est pas propriétaire de Paris. On dit tout simplement, il manque de place à Paris. Allez, ne pas faire pendant les travaux de Beaubourg, les travaux qui seront à la porte de Versailles et dans d'autres lieux. Gardez ce lieu qui est iconique avec notamment, si vous regardez bien, le nombre de médailles françaises qui ont été faites dedans. Je crois que c'est dommage, mais c'est aux politiques de décider ce qu'ils font de leur ville, ainsi de suite.
Olivier Ginon, vous êtes souvent dans le crible du canard enchaîné. J'imagine que vous avez lu l'article qu'il vous a consacré. Il dit, mais tiens, sur les contrats avec Paris 2024... On n'arrive pas à avoir la tonalité, on n'arrive pas à avoir ces contrats. Ce qui est vrai pour vous, mais pour d'autres aussi prestataires. Or, normalement, on devrait les avoir. Vous êtes prêt à nous dire que vous allez les révéler ?
Mais écoutez, moi, nos chiffres, on les publie aujourd'hui.
Oui.
On n'a jamais... vous nous connaissez depuis de nombreuses années. Nos chiffres, on les donne facilement. Le sujet n'est pas là. Le sujet est que tout le monde dit que c'est des contrats publics. Je crois qu'il y a un contrôle public sur tout ce qui se fait sur les Jeux Olympiques. Mais il y a eu des appels d'offres. Les appels d'offres ont eu une compétition féroce. Cette compétition féroce ont donné naissance à des contrats avec des entreprises. Moi, je ne suis pas ici pour dire il y a eu des arrangements, pas d'arrangements. Il y a des méthodologies d'appel d'offres dans le monde entier qui sont les mêmes de partout. Ouais,
mais on ne connaît pas forcément les termes de l'appel d'offres. Enfin, juste un point là-dessus, on ne va pas...
Mais ça, c'est le problème, si vous voulez, du canard enchaîné. C'est le problème
de Paris 2024,
de dire ce qu'ils veulent dire. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que notre entreprise se bat en France et dans le monde entier. Et j'aimerais simplement un tout petit peu de décence par rapport à tout ce qui s'est passé sur Paris 2024 et sur les Jeux Olympiques, parce que c'est une réussite
magnifique.
Est-ce que
pour vous, justement, en conclusion, Olivier Ginon, on le voit dans vos chiffres qui sont exceptionnels, est-ce que c'est votre plus belle réussite ? Est-ce que vous diriez, sans faire de cocorico, c'est ma plus belle réussite ?
Moi, je vous dirais
événementielle.
Moi, je vous dirais qu'une chose, que toute entreprise qui ferait notre métier, qui aurait installé de la Concorde en passant par tous les quais, les Invalides, le Champ de Mars, le Grand Palais éphémère, le Parc d'exposition de Versailles, Versailles, les Jardins de Versailles, c'est pour notre entreprise, avec tout. Ouais. Avec tous les sous-traitants qu'on a emmenés, toute la filière qu'on a embarquée avec nous, eh bien, je pense que c'est un résultat magnifique de la filière événementielle et que c'est très bien pour toute notre filière.
Et c'est une vitrine en or. Merci beaucoup, Olivier Ginon, d'être venu ici, d'avoir pris le temps, parce que c'est vrai, vous êtes encore en plein dans les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Merci beaucoup.
C'était un plaisir. Bonne soirée.
D'avoir été avec nous.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
Bonsoir Jean-Christophe Repon.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On va parler d'autres formes de construction, cette fois-ci plus durable, puisque vous êtes le président de la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. Demain, vous faites votre entrée, je le disais. Oui. Là, vous la faites gentiment, vous nous dévoilez un peu les grandes lignes. Ce qu'on peut dire, c'est que le bâtiment, notamment les artisans, l'artisanat du bâtiment, continue à s'enfoncer dans la crise.
On a une décroissance. Alors, je dirais qu'on s'en sort pas mal dans le bâtiment. La partie artisanat du bâtiment s'en sort mieux que le reste du bâtiment.
Moins 3% quand même.
Moins 3% d'activité,
oui,
sur le trimestre.
Et c'est pas la première fois, oui.
Et c'est pas la première fois. On a surtout le neuf qui nous embarque dans cette décroissance qui est à moins 6%. Et puis derrière, l'entretien rénovation qui est notre socle de travaux qui est en moins 0,5. Et l'entretien rénovation de la performance énergétique qui lui est en recul de moins 1,5, et c'est là qu'on a vraiment beaucoup de questionnements et d'ambitions pour le futur gouvernement.
Oui. Est-ce que justement, futur gouvernement, merci de me tendre la perche, mais il faut dire qu'on ne parle que de ça, est-ce que pour vous le fait d'avoir de ne pas avoir de ministre, d'avoir cette crise, cette instabilité politique, est-ce que vous ressentez que ça a un impact ou pas sur votre business?
Nous avions bien travaillé avec les ministres Christophe Béchu et Gasparian sur le logement et la transition énergétique, et nous avions des pistes de travail assez intéressantes pour 2024 et 2025. C'est vrai que la dissolution et l'absence de négociateurs ou d'intervenants ou d'arbitrage n'a pas permis de continuer ces travaux et a surtout engagé auprès des particuliers un attentisme sur le fait, est-ce que j'investis, est-ce que j'investis pas, est-ce que c'est le bon moment, qu'est-ce qui va se passer demain politiquement, comment je vais être mangé ou pas mangé. Donc il y a eu un arrêt brutal d'activité qu'on espérait être relancé par la transition énergétique qui va nous demander d'arbitrage évident pour la fin 2024, pour espérer sauver 2024.
Oui, donc pour vous, la rénovation énergétique, c'est vraiment votre planche de salut.
C'est le levier le plus facile à dynamiser rapidement pour redonner de l'activité à un potentiel énorme d'artisans et aussi, surtout, pour lutter pour le pouvoir d'achat des particuliers, améliorer l'habitat, baisser la facture énergétique.
Pardon Jean-Christophe, oui. J'avais le sentiment, en tous les cas, que ma MaPrimeRénov, ça ne marchait pas. Il y a eu différentes versions. La dernière version, c'était un peu une usine à gaz. En plus, donc il y a eu des restrictions financières et des périmètres qui ont été rétrécis. Donc finalement, vous vous dites quand même que c'est un outil qui marche.
C'est un outil qui peut être amélioré. C'est un outil d'aide aux particuliers, non pas aux entreprises, mais qui donne de l'activité aux entreprises. Et donc, pour nous, c'est essentiel. On a essayé de l'améliorer. On avait interpellé l'ANA et le gouvernement en disant que ce qui était proposé ne marcherait pas. Ils avaient eu le courage politique de le revisiter au mois de mars. Et on avait un potentiel là d'activité qui était assez prégnante. Maintenant, on a vu un décollage mars-mai, après la dissolution. Et là, on a un attentisme qui ne sert pas l'activité. Et on a besoin donc, nous, d'avoir un gouvernement, un ministre, mais surtout des arbitrages, surtout que on a entendu parler des arbitrages de budgétaires qui donnent un budget de MaPrimeRénov, qui est une priorité nationale, je le rappelle, à la baisse. Et donc nous, on dit qu'il faut continuer à travailler l'amélioration de MaPrimeRénov, mais surtout au moins pour le particulier, pour le grand public, leur laisser la vision d'un budget important, priorité.
Vous avez vu encore l'alerte rouge sur les finances publiques, avec des prévisions qui pourraient être catastrophiques, franchement, pour l'année prochaine. Est-ce que il faut trouver des économies, et ça va se faire sans doute sur les aides aux entreprises et notamment sur MaPrimeRénov.
Mais je vous le redis, MaPrimeRénov n'est pas une aide aux entreprises.
Oui, je sais, oui.
Elle est une aide aux activités. Et quand on met 1 euro dans MaPrimeRénov,
c'est une aide pour vous.
Vous avez vu que le budget, j'ai entendu le ministre démissionnaire dire qu'il fallait encore chercher un peu plus que ce qui était prévu, mais qu'il y a eu moins de rentrées fiscales. Alors quand vous mettez de l'activité sur 1 euro de MaPrimeRénov, vous mettez à peu près 3 euros entre l'emploi et la fiscalité d'activité pour les ressources des deniers publics. Donc nous, on pense que c'est pas égoïste de dire ça, c'est de dire, si ça reste une priorité, la transition énergétique, si c'est important pour la France, il faut maintenir l'aide aux particuliers, non pas aux entreprises, pour mettre de l'activité. Et là, vous aurez des rentrées fiscales, de la TVA et aussi de l'emploi. Et ça, c'est pour nous important aussi dans l'ensemble du territoire.
Demain, je le disais, vous faites votre rentrée avec le président de l'UDP, donc l'artisanat, les petites entreprises, et vous lancez un appel justement au gouvernement, mais pas que, en disant, il faut un Grenelle du logement. Mmh. En même temps, c'est important. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous mettez dessous. Et j'ai l'impression que sur le logement, on a eu 25 Grenelles, alors 25 politiques du logement, et qu'on est dans cette situation un peu catastrophique.
On a besoin d'une vraie réflexion de fond sur le logement. Quand on parle de des partenaires parlent régulièrement de la crise du logement et des emplois qui pourraient être détruits, il ne faut pas oublier que dans le logement, il y a aussi le logement existant. On a le neuf, qu'il faut, me semble-t-il, revisiter sur la promotion immobilière et sur la construction neuve. Et il faut revoir un modèle économique qui tient plus actuellement de par la dernière législature. Donc il faut retravailler là-dessus. C'est pour ça que nous, on est prêts aussi à travailler sur le neuf. Mais il y a aussi tout le stock des 30 millions de logements existants qu'il faut rehausser, qu'il faut améliorer, qu'il faut valoriser pour les particuliers, qu'il faut maintenir pour les personnes âgées ou vieillissement de la population. Donc on a un potentiel énorme d'activité, un potentiel énorme d'emploi. Et on dit qu'il faut se poser et mettre à plat et redonner une vision un peu optimiste comme on l'a vu sur les Jeux Olympiques.
Alors oui, pardonnez-moi, je vais rester un instant pessimiste quand même, ou peut-être réaliste. On dit que le nombre des faillites, là, pendant l'été, c'est à augmenter. Est-ce que vous, c'est le cas, notamment dans l'artisanat et l'artisanat du bâtiment?
Bien sûr, c'est le cas. Et c'est pour ça qu'on est très vigilant et qu'on veut à tout prix un Grenelle pour pouvoir donner l'activité. On est revenu à peu près au-delà du chiffre de 2019. Donc, on est un peu au-dessus du chiffre de 2019, qui est un peu, des signes avant-coureurs de récession. Donc, nous, on essaie de trouver des solutions pour ne pas atteindre la récession. On est en recul d'activité et on ne veut pas atteindre la récession. On a besoin de donner un signal fort aux artisans, aux particuliers, et on en parlera demain avec l'UDP sur l'importance de la TPE sur l'ensemble du territoire pour faire de la plus-value et de la proximité et amener des compétences, du métier, des apprentis et de l'emploi demain. Et c'est ça qu'il faut redonner. Donc moi, je suis pas d'un optimiste béant, mais je suis sûr qu'on peut trouver des solutions pour redonner cette activité.
Le frein n'est-il pas aussi, surtout, à vous de choisir, sur l'importance, le fardeau des normes?
On avait un projet de simplification qui était en cours.
C'est l'ancien monde, vous avez là.
Oui, mais alors je me disais qu'on avait des sujets transpartisans qui devaient être trouvés, et j'incite le futur Premier ministre à aller sur un projet transpartisan de simplification qui permettra de pouvoir engager de l'activité. On en plaisante, mais il y a vraiment des choses qui étaient en activité, qui devaient prendre des lois qui devaient arriver pour permettre aux artisans d'accéder à des marchés, etc., qu'il faut remettre sur le tapis.
Si vous aviez qu'est-ce que vous attendez, donc, un Grenelle, des décisions, on a bien compris, des décisions notamment sur la prime Rénov, etc., mais vous attendez quoi d'un futur ministre du Logement, à supposer qu'il y en ait un?
À supposer qu'il y en ait un, on lui demande qu'on mette la filière autour de la table et qu'on regarde bien et qu'on se pose les bonnes questions en sincérité, nous on ne prendra pas le retour au Pinel, la revisite de la ZAN ou le PTZ revisité. Ça a fait son temps, c'était un modèle économique. Il faut qu'on se pose les vraies questions avec des experts, avec nous qui sommes les acteurs de la filière, sur les solutions qu'on peut trouver pour qu'on construise bien, au juste prix, pour donner du pouvoir d'achat aux particuliers.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de recrutement dans l'artisanat?
On aura, je le souhaite vraiment qu'on ait encore demain un problème. Donc pour l'instant, on est plutôt sur du maintien de l'emploi ou de la destruction d'emploi avec l'activité qui est à la baisse. Nous, on a le potentiel de créer 200 000 emplois si on tient les objectifs de la rénovation énergétique. C'est pour ça que le signal de MaPrimeRénov' n'est pas que du budget déficitaire, c'est aussi un signal fort de dire c'est une priorité.
200 000 emplois. Merci beaucoup Jean-Christophe Repond d'être venu avec nous. Donc le président de la CAPA, vous avez compris, les artisans et les petites entreprises du bâtiment qui appellent à un Grenelle du logement. Merci beaucoup.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h34, les experts BFM, première partie jusqu'à 19h pour décrypter l'actualité économique. Emmanuel Le Chypre est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Edwige, bien sûr, est avec nous. Bonsoir Edwige.
Bonsoir.
Et puis la table va se remplir. Thomas Asportas va nous rejoindre. François Cholet puis Olivier Chiche-Portiche vont nous rejoindre d'ici 19h. D'abord, un petit mot parce qu'on n'a pas de Premier ministre. Alors, ce soir ou pas? Mon Dieu, l'avenir le dira.
Mais visuellement, ça discute encore.
Apparemment, ça discute encore.
On
a des patrons, en tout cas, on vient d'en avoir la confirmation avec le patron de la CAPEB pour les métiers du bâtiment. Eux attendent plus que jamais, Edwige.
C'est-à-dire, comme tout, c'est un peu ce que disait du reste François Omeril hier, le syndicaliste FSCGC, en disant, mais on a besoin, ou encore Marie-Lise Léon, elle disait, on a besoin d'abord à notre entrée sociale, et puis surtout, on a besoin d'arbitrage. C'est-à-dire que là, sur la CAPEB, ils avaient, il a rendu hommage à Christophe Béchu et à Kasparian, le nouveau ministre du Logement, même s'il a été peu de temps. On a des décisions qui étaient prises, on attend maintenant la concrétisation, et là, pour l'instant, tout est suspendu. Notamment sur MaPrimeRénov', grave, parce qu'on voit quand même que l'artisanat du bâtiment, enfin, c'est ce qu'il a dit, hein, assez, ça plonge un peu dans la crise, moins 3% et moins 6% pour le neuf, c'est la cata.
Quelle tragédie pour ces métiers. Emmanuel, de mémoire, le bâtiment, les travaux publics, l'immobilier, ça se compte en millions d'emplois directs ou indirects. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre en tête.
200 000, et ça, il a dit 200 000.
Et ça plombe les recettes de l'État, par définition. Voilà, tout ce
alors, il faut savoir qu'un logement construit, un logement non construit, c'est 50 000 euros de recettes en moins pour l'État. Voilà. Donc, ça vous donne une idée un petit peu de la place que prend l'effondrement du secteur de la construction et des ventes de logements neufs dans les pertes de recettes aujourd'hui de l'État.
Et les droits de mutation.
Et aussi des collectivités locales. Mmh. Donc, c'est terrible. C'est quelque chose qu'on a pas vu venir, mais de toute façon, cette crise de logement, personne n'a voulu s'y intéresser à l'Élysée ni dans les ministères, etc. Donc, et donc, on a eu l'air de découvrir cette crise, finalement, qui a des racines profondes, qui auraient pu être traitées beaucoup plus tôt. Et encore une fois, c'était s'attaquer au problème du logement, c'était résoudre énormément de problèmes auxquels sont confrontés les Français. Et c'est un pan entier de l'activité politique qu'on a laissé complètement.
Avant qu'un nouveau ministre du logement, s'il y en a un qui est nommé, mette son nez dans ses affaires, il peut encore se passer quelques mois. L'année, elle est morte. Quoi,
c'est ce que disait sur Christophe Repond, encore de la CAPEB. Lui disait c'est 200 000 emplois en jeu, hein, quand même, donc, pour eux, dans l'artisanat. Donc, mais en même temps, il ne faut pas faire du pessimisme. On a d'autres raisons pour le faire. À outrance, il dit, pour l'instant, quand même, ça se maintient. On n'est pas dans la récession. Point important, hein, quand même, à souligner.
Voilà pour ses patrons, le patron de la CAPEB qui attend. Le patron d'OG11, il attend. Non, il attend moins, lui.
Les JO vont se terminer.
Quelques vacances.
Donc, lui, il va pouvoir prendre quelques vacances. Il nous a donné les chiffres. 360 millions d'euros à les Jeux Olympiques. Il a fait quelques 70%. Alors, je précise, parce que c'est vrai qu'il est un peu dans la ligne de mire, toujours, du canard enchaîné, qui donnait des chiffres. Il dit que c'est 70% de tout ce qui est démontable.
Oui,
voilà. D'ailleurs, il y a 160 000 places qui ont été créées. Et là, il en a fait 100 000, un peu plus de 100 000.
Voilà. On va dire qu'il y a des patrons qui attendent plus ou moins. Voilà, on va dire ça comme ça, finalement. J'accueille François Chollet qui nous reçoit. Bonsoir François.
Bonjour.
Directeur général de Montségur Finance. Et on accueille Thomas Asportas qui va nous rejoindre. Venez Thomas, pour parler de cet article, de ces infos qui ont fuité ce matin, qui nous disent quoi? Qu'on va aller chercher des milliards d'euros d'économies l'an prochain du côté des aides aux entreprises. Rapport de l'Inspection Générale des Finances. Colère ce matin avec ces mots bien sentis du patron de la CPME, François Asselin. Écoutez ce qu'il disait.
Qui crée l'argent?
Alors, François Asselin qu'on va écouter. Est-ce qu'on peut écouter François Asselin? Non, on va d'abord dire un mot.
Qui crée l'argent?
Voilà.
C'est le secteur marchand. Et le secteur marchand, c'est qui? Ce sont les entreprises, ce sont les entrepreneurs. Hein, je vous rappelle simplement une chose. Sondage de la CPME au mois d'avril 2024, c'est récent. Vous avez 20% des entrepreneurs qui vivent avec moins de 1 400 euros net par mois. Hein, ce sont ces risques tout, emmerdés par les risques rien. Les risques rien, ce ne sont pas des personnes. Ce sont les normes absurdes, ce sont les règlements inapplicables. Et puis, c'est parfois une politique fiscale qui arrête toute initiative d'entreprendre. Il ne faut surtout pas décourager ceux qui ont cette...
Pas casser l'envie, tout simplement.
Mais bien sûr, pourquoi? Parce qu'on a cette qualité, c'est qu'on est capable de prendre des risques et derrière le risque qu'on prend, on emmène les gens, on fait de la création de richesses, on paye des impôts, on fait de la redistribution. Donc si vous commencez à décourager ceux qui ont cette magnifique capacité de prendre des risques, eh bien il y aura point de salut pour le pays. Ça ne plaisante pas aujourd'hui.
Voilà, je ne vois pas qu'on résume le propos de François Asselin à cette punchline qui était bien sentie effectivement pour le coup. Thomas, est-ce qu'on peut faire un petit peu l'inventaire de ce que dit l'IGF et puis où est-ce qu'on va chercher ces milliards finalement d'économies sur les aides aux entreprises?
Bercy rappelle déjà que les aides aux entreprises, c'est en gros 100 milliards d'euros.
Ouais.
Si on additionne les aides de l'État et les aides des collectivités. Sur ces 100 milliards, Bercy nous dit qu'on pourrait assez facilement trouver 3 milliards d'euros. Dans ces 3 milliards, vous avez notamment une nouvelle coupe dans les budgets des chambres de commerce et d'industrie. Vous savez que depuis que Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée, elles ont subi des coupes drastiques dans leur budget. Là, pourraient encore faire leur poche, entre guillemets, 700 millions d'euros dans leur mission d'accompagnement des entreprises. Vous avez aussi, ça c'est quelque chose qui montait de plus en plus, le crédit d'impôt recherche. Il y a une polémique récurrente parce que c'est l'aide aux entreprises la plus importante, c'est près de 7 milliards d'euros.
7 milliards d'euros, ouais.
Là, on nous dit qu'on pourrait faire 450 millions d'euros. Bruno Le Maire l'avait déjà évoqué dans le dernier budget, mais rien n'avait été fait parce qu'Emmanuel Macron, c'est un vraiment de ses totems sacrés. On n'y touche pas. Là, l'IGF nous dit qu'on pourrait aller chercher 450 millions d'euros d'économies en supprimant le dispositif pour les jeunes docteurs ou en excluant les dépenses de veille technologique. Et puis, il y a la cible habituelle, enfin les niches fiscales sur les carburants, les taux réduits de carburant. On nous dit que là, qu'on pourrait aller chercher 900 millions, quasiment 1 milliard, en supprimant les tarifs réduits pour les biocarburants, le transport collectif routier, les taxis, ou encore supprimer la prime à la conversion pour les flottes d'entreprises. Donc ça nous fait 3 milliards. Et puis, alors ça tient en 4 lignes, mais 4 lignes qui rapporteraient 7 milliards d'euros. Si on touche à la TVA, voilà. Théorie, en tout cas, d'après les modèles du Trésor, enfin de l'IGF, on pourrait très facilement trouver 7 milliards. 3 milliards en remontant de 10 à 12,5 le taux intermédiaire de TVA, et 4 milliards si on supprimait les taux réduits, donc là c'est le taux à 5,5 pour certaines
hôtellerie,
professions.
Restauration,
notamment l'accès aux enceintes sportives, donc là ce serait pour le coup votre comme GL Events qui serait concerné, ou encore les eaux en bouteille.
Vous la comprenez, la colère de François Asselin, très légitime peut-être ce matin sur BFM Business, qui a aussi mis en avant effectivement le poids de la fiscalité des impôts de prod, effectivement, qui continue de peser plus sur les entreprises françaises.
Mais c'est presque plus les normes, on le voit, c'est ce que disait la reprend la CAPEB et aussi Asselin, c'est le poids des normes et tout ce que ça implique derrière. Et c'est ça qui, à mon avis, freine énormément la croissance et pèse sur les entreprises.
Retouches budgétaires, enfin, il n'y a pas de choc fiscal là-dedans. Alors,
sur la TVA,
on est en train de nous dire. Oui, la TVA, effectivement, c'est un peu plus sensible.
Je pense que vous êtes comme nous, Thomas ou Emmanuel. Ouais. C'est-à-dire que moi, peux vous lire le nombre de messages que j'ai reçus pour nous expliquer que c'est une véritable catastrophe si jamais on supprime la TVA à taux réduit et si on passe de 10 à 10,5.
Effectivement, la TVA, c'est toujours très sensible. Mais je pensais plus aux 3 milliards d'aides. C'est pas non plus, on n'est pas en train de dire que d'un coup, on va revenir sur la flat tax, qu'on va réinstaurer l'ISF.
C'est la fin de la politique de l'offre.
On va annuler les baisses d'impôts de production, tout ça c'est de la rustine, quoi. Voilà, c'est encore un coup de rabot. Et je trouve, et au final, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est revu, parce que tout ça, ça vient des revues de dépenses menées par Bercy depuis des mois et des mois. Oui. Bruno Le Maire, il en parle depuis janvier 2023. Souvenez-vous, à l'époque, il disait on va avoir la gueule de bois quand on va découvrir l'état de nos comptes publics. On y est. Et quand on voit le résultat de ces revues de dépenses, il y en a une quinzaine quasiment. Je vous ai parlé à la lecture. Qu'on en arrive à des bouts de chandelle de centaines de millions d'euros, ou à la limite de quelques milliards, quand on voit, on écoutera Jean-François Husson, l'ampleur des déficits et de la dette de notre pays, qui se chiffre pas en centaines de millions ou de milliards, mais de dizaines de milliards, ces revues de dépenses, elles sont pas du tout à la hauteur. Il y a aucune réforme systémique qui n'est proposée là-dedans. Ce sont d'énièmes rustines et coups de rabot proposés ici ou là.
Vous dites pareil, Emmanuel, coups de rustine, effectivement, et fait de com', là.
Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, la situation, elle a sans doute jamais été aussi compliquée, et le mur de dépenses qu'il faut réduire, ou le mur de déficit qu'il faut réduire. Hein. Si vous faites le compte, quand même, si vous reprenez les trajectoires qui ont été décrites comme raisonnables à l'horizon des 5, 7, 10 ans, qui sont celles décrites par le Conseil d'analyse économique ou l'Institut des politiques publiques, qui consistent à aller chercher 20 milliards à peu près par an de réduction des déficits, etc., vous vous dites, de toute façon, il faut jouer sur tous les leviers. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de trésor caché. Et donc, les quatre leviers, c'est réduction des dépenses, c'est hausse des impôts, c'est un peu d'inflation, merci, et puis c'est la croissance. Donc, François Asselin a raison, dans la mesure où, effectivement, une des solutions pour ne pas trop augmenter la fiscalité, par exemple, c'est d'avoir une base fiscale qui s'élargit. Et donc, tout faire pour que les entreprises...
Et pas de handicap compétitif. Et pas de handicap compétitif.
Si on arrivait... À faire émerger autant d'entreprises de taille intermédiaire que...
Oui, mais c'est le dosage, Emmanuel, qui est important, si je peux permettre.
Ou l'Allemagne, par exemple, on aurait plus de problèmes de finances publiques. Mais l'ampleur de la tâche est telle qu'il faut aussi, ce qu'on ne fait jamais en France, évaluer les politiques publiques. Et là, où on ne peut... et là la réalité, c'est que...
C'est là où ces revues de dépenses sont très décevantes.
Ben oui.
C'est l'objet de ces revues, évaluer la politique publique.
Oui, mais c'est vrai moi, je ne comprends pas très bien là, les chiffrages qui sont sortis, parce qu'il y en a d'autres qui ont été faits et qui aboutissent quand même pour le coup, non pas à des centaines de millions, mais à des milliards. Si vous reprenez, encore une fois, les 4-5 propositions qui sont faites par le CAE dans sa note du mois de juillet, vous avez quoi? Vous avez... et sans tabou. Et il y en a pour tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, et Bruno Coquet qui vient souvent ici nous dit, sur les aides à l'apprentissage.
On peut économiser 10-12 milliards.
Entre 4 et 8 milliards.
Allez, non, lui dit on peut économiser jusqu'à 10-12 milliards d'euros.
Bon, entre 4 et 8.
Les
exonérations de cotisations employeurs. On peut sans doute faire mieux. 2 milliards, nous dit le CAE, sur le crédit impôt recherche. C'est vrai que c'est un truc français, mais enfin, quand même, l'État français finance 20% des dépenses de R&D privées en France. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est 6%. Donc, il y a sans doute là quelques milliards à gratter. Les droits de succession, on y coupera pas. Il y a sans doute une dizaine de milliards. Donc, tout ça, on est obligé de le faire. Donc, oui, c'est vrai que c'est décevant. Bon. Parce que, effectivement, on n'est pas à la hauteur de...
Écoutons.
Mais on ne peut pas s'en priver non plus.
Écoutons, puisqu'on parle déficit, le coup de gueule. Alors, il y a conférence de presse cet après-midi au Sénat, cette fois, le président de la Commission des Finances et le rapporteur général de la Commission. PS, le président, LR, le rapporteur Jean-François Husson, qui s'inquiète. Ouais. Écoutez, Jean-François Husson, qui a été cash sur les chiffres aujourd'hui au Sénat. Écoutez.
Le solde public serait, d'après la Direction générale du Trésor, de 5,6% du PIB en 2024, au lieu de 5,1% lors du programme de stabilité en avril, et je le rappelle, de 4,4% dans le cadre de la loi de finances initiale adoptée par la procédure du 49-3, c'était il y a longtemps, c'était il y a 9 mois. 9 mois pour une telle dérive, et on nous annonce, la même note de la Direction générale du Trésor, 6,2%, c'est-à-dire, si on regarde 4,1 dans le PESTAB pour finir en 2025 à 6,2, ça voudrait dire 60 milliards. 50% d'augmentation de la dérive.
Voilà, 60 milliards.
Excusez du peu.
Excusez du peu, Jean-François Husson. On n'a pas le temps de commenter ces chiffres parce qu'il nous reste quelques minutes pour parler un petit peu, un mot du contexte politique. François Cholet, déjà un mot là-dessus. Est-ce que vous dites qu'il est temps véritablement aux yeux des marchés, aux yeux des investisseurs, qu'on ait un Premier ministre peut-être ce soir-là? Est-ce que ça n'a que trop duré?
La dissolution a fait mal au marché français. Ouais. La dissolution a créé un gap de valorisation, un gap de performance. L'indice CAC 40 est en repli depuis le début de l'année, alors que les indices européens sont à proximité de 10% de performance. Et ça, ça s'est créé au moment de la dissolution en juin. Et on regarde beaucoup l'écart de taux d'intérêt avec l'emprunt d'État allemand. Il a lui aussi progressé à peu près à 0,7%. Mais les marchés financiers ont sanctionné l'incertitude qui pèse aujourd'hui sur le gouvernement français.
Enfin, François, ça n'empêche que si on émettait deux fois plus de dettes, les investisseurs achèteraient deux fois plus de dettes.
Je parlais de marché actions.
Oui,
on n'a pas creusé plus que cela sur la partie obligataire. En revanche, sur les marchés actions, la France est devenue une certaine couverture naturelle pour couvrir un risque européen. Ouais.
Il est presque temps. Peut-être pour ce soir, donc on attend toujours évidemment le nom du Premier ministre. J'aurai une question pour vous sur la tech dans un instant, François. D'un mot, je ne vais pas vous demander de jouer aux petits chevaux et au jeu des pronostics ce soir. Qui sera Premier ministre?
Donc on est toujours dans les petits chevaux.
On est toujours dans les petits chevaux.
Oui, là, visiblement. Ce qu'on disait, c'est que encore plié.
À moins que,
pendant que nous parlions, il y a peut-être un communiqué qui est en train de sortir. Regardez vos tablettes.
On est dessus, non?
Mais on les regarde depuis. On a mal aux yeux à la force de les regarder depuis 50 jours. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est assez intéressant, c'est que.
On est censé moins regarder les écrans du gouvernement.
Oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, il y a deux, trois trucs qui émergent. C'est que, en fait, la peur d'Emmanuel Macron, c'est de disparaître dans un trou, quoi, passer à la trappe. Et notamment que ces réformes passent à la trappe. Et notamment la réforme des retraites. C'est ce qui fait que, par exemple, il est plutôt pour un Xavier Bertrand, avec qui il ne s'entend pas du tout, les relations sont glaciales, parce que sur les réformes des retraites, ils sont à peu près d'accord. C'est vraiment la ligne rouge pour Emmanuel Macron, la réforme des retraites. De l'autre côté, vous aviez Bernard Cazeneuve qui, lui, était plutôt pour abroger, voire modifier très largement cette réforme des retraites. Et on dit même que Laurent Berger, ancien secrétaire général de la CFDT, qu'on avait dit depuis longtemps, le Premier ministre, il avait dit non. Mais paraît-il que la semaine dernière, ils étaient proches d'un accord avec Emmanuel Macron.
Mais c'est les retraites, ça.
Mais ça a coincé, justement, sur la réforme des retraites, parce que Laurent Berger n'en démord pas. Il faut modifier cette réforme des retraites. Et de l'autre côté de la table, Emmanuel Macron n'en démord pas. Il ne faut pas modifier cette réforme des retraites. Il veut cette réforme des retraites. On peut la modifier à la marge, mais c'est tout, quoi. Il faut rester sur les 64 ans. Et Laurent Berger, qui, paraît-il, était vraiment au bord d'accepter... Eh bien, en fait, il a dit non parce que je veux toucher à la réforme des retraites. Et Macron a dit non, pour moi, c'est impossible.
Bon,
donc, on voit qu'il y a quand même des lignes rouges pour...
Donc, ça élimine aussi Bernard Cazeneuve. De fait, reste Xavier Bertrand.
Xavier Bertrand avec qui ils ont pas mal de... Il y a pas mal de communautés, à part le fait que... Il faut voir que Bertrand, il n'a pas arrêté de taper quand BFM Politique l'a interrogé plein de fois, et même encore au MEDEF, là, à la REF. il tapait à mort sur Emmanuel Macron. Il disait, de toute manière, il ne me prendra jamais parce que j'ai dit trop d'horreur sur lui. Réponse dans quelques temps.
D'un mot, vous achetez Xavier Bertrand? Le nom David Bisnard,
c'est crédible ou
Cazeneuve ou pas, voilà. Non, je sais pas.
Non, la seule chose, c'est que la droite.
Je sais même plus quelle question vous posez ce soir.
La droite semble un peu mieux disposée vis-à-vis de Xavier Bertrand que la gauche vis-à-vis de et notamment les socialistes vis-à-vis de Bernard Cazeneuve. Donc ça peut jouer aussi en faveur de Xavier Bertrand.
Thomas.
Oui, mais enfin, tout le monde censurait Xavier Bertrand, donc je comprends pas pourquoi on continue d'en parler. Bien. Le RN et le Nouveau Front Populaire, donc. Ouais. Ça fait trois mois qu'on fait des maths, hein. C'est des exercices d'addition.
Oui, ils sont jamais que des maths.
Comme les négociations européennes.
Et tout ça,
13 députés de gauche qui ne voteront pas pour lui, a priori, contrairement à ce qu'ils pensent. Et vous avez 142 députés du Rassemblement National qui ne voteront pas non plus pour lui. Donc, on arrive à 335, si vous le suivez. Donc, c'est 289.
Largement dessus.
Et tout ça sous l'œil des marchés. J'en reviens à vous, François, parce qu'on voulait dire un mot, trois minutes, là, sur ce qui s'est joué hier soir. Petit vent de panique sur les marchés, un Nasdaq qui dévisse. Et un titre Nvidia, ça va mieux aujourd'hui, du côté de Wall Street, qui a perdu quasiment 10%. Avec de plus en plus d'inquiétudes autour de l'intelligence artificielle. Quel calendrier, quel cas d'usage, finalement? Est-ce qu'il y a une bulle sur l'IA aujourd'hui, François, pour vous?
Alors, là, c'est effectivement l'éléphant au milieu du couloir, puisque là, c'est pas des économies de bout de chandelle. On parle d'une perte de valeur pour Nvidia de 270 milliards.
On n'a jamais vu ça en séance.
Une séance.
On n'a jamais vu ça.
Pour donner un ordre d'idée, la plus grosse valeur européenne aujourd'hui, c'est LVMH. On est un petit peu au-dessus de 300 milliards. Et ce qu'a perdu Nvidia hier, c'est l'équivalent de deux fois Total en valeur. Donc, juste pour qu'on ait en ordre d'idée ces éléments. Nvidia, c'est l'éléphant parce que Nvidia seul a contribué quasiment à 8% de performance de l'indice large américain, le S&P 500, qui est à plus 18 depuis le début de l'année. C'est pour montrer cette performance, 145% de performance encore pour Nvidia depuis le début de l'année. Il était effectivement possible que ça consolide. Cette consolidation est arrivée lors de la publication des résultats. Ils étaient excellents. Simplement, le groupe communique sur des retards, sur des réserves, sur effectivement... l'enfer, c'est les détails, mais il faut quand même produire ce qui est demandé par cette demande folle sur ces puces. Ils communiquent aussi sur une évolution de la stratégie, un peu de logiciel, un peu de réseau pour accompagner dans les data centers. Effectivement, ça fait un peu peur au marché parce que c'est pas du tout les mêmes marges que ceux qui sont capables de produire aujourd'hui. Et puis, Nvidia... Aujourd'hui, c'est la nouvelle qui a été, je pense, le déclencheur.
Oui.
Hier, c'est cette nouvelle du département de la justice américain
qui enquête
dans le cadre d'un probable, on peut le dire, procès pour la rupture de loi antitrust aux États-Unis. Et donc ça, c'est un pas de plus vers une mise en accusation, cette fois-ci formelle, qui effectivement peut effrayer. Et il y a une telle position dominante.
Évidemment.
Nvidia
incontournable.
a eu cette capacité, en plus de s'approprier toutes les chaînes de production partout dans le monde pour les années qui viennent. Et donc cette avance-là, on ne voit pas comment les autres vont pouvoir à très court terme, la combler. Il n'empêche, quand on se paye 50, 60 ans de profit, 80 ans de profit, le moindre grain de sable sur les valorisations, eh bien, ça fait des retours. Et Nvidia, on est passé de 140 au plus haut à 109 ou 108 au moment où je vous parle. Ça peut paraître un retour brutal.
Ouais.
N'oublions pas le parcours récent du titre. C'est quelque chose qui a été phénoménal et qui le reste.
1000% depuis le point bas d'octobre 2022, si je ne m'abuse. Voilà, tout est dit. Voilà.
Dans ce segment de marché-là, c'est très rare qu'une entreprise dans les semi-conducteurs arrive à avoir des positions aussi dominantes. C'est la première fois.
Voilà, Nvidia qui a donc trébuché hier de 10% et la planète entière qui a trébuché pendant quelques heures. Merci beaucoup François pour cette analyse. 18h53, vue sur le web. Comme tous les soirs, on met en avant un article du web de bfmbusiness.com dans Good Evening Business. Et c'est Olivier Chiche-Portiche qui est avec nous ce soir en direct. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Pour parler de tous ces pays qui multiplient par deux, par trois, la taxe de séjour à l'heure actuelle. Est-ce que c'est pour des raisons de surtourisme? Sinon, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir, finalement, Olivier?
C'est vrai qu'il y a aussi, par exemple, vous comptez partir à Lisbonne là pendant le mois de septembre au Portugal. Il va falloir s'attendre à une taxe de séjour qui est désormais deux fois plus élevée, qui est passée de 1 à 2 euros par jour. Hein. C'est une petite somme, mais c'est une augmentation quand même assez importante.
On est loin de Paris, hein, quand même.
C'est sûr. En Nouvelle-Zélande, depuis le 1er octobre, ce sont les frais d'entrée pour les visiteurs internationaux qui ont été triplés et qui passent à 65$. Et puis, plus proche de nous, en Italie, grande destination touristique hein, par excellence, c'est là où les augmentations risquent d'être le plus sensibles. Alors c'est vrai que pour l'instant, c'est un projet, rien n'a été décidé, mais le gouvernement Meloni envisage sérieusement de faire passer la taxe de séjour à 10, 15, voire 25 euros par jour, en fonction du standing de l'hôtel dans lequel vous allez séjourner.
Et donc, qu'est-ce qui justifie ces augmentations, Olivier?
Évidemment, officiellement, il s'agit de lutter contre les effets du surtourisme, qui sont à peu près dénoncés aujourd'hui par de plus en plus d'habitants des pays concernés. À Lisbonne, par exemple, la ville et ses toutes petites ruelles étouffent un petit peu sous le poids des 6 millions de visiteurs quotidiens. Même chose en Italie, évidemment, à Rome, Naples ou Venise. On le sait, le surtourisme fait un peu des ravages, notamment à Venise. L'idée est donc de limiter les flux, mais aussi de responsabiliser les touristes par rapport à leur comportement avec ces taxes, ou d'autres d'ailleurs. C'est vrai, entre parenthèses, on a appris aujourd'hui que la ville de Rome envisage de faire payer l'accès à la célèbre fontaine de Trevi, qui est très très fréquentée dans cette ville. Et puis, vous le savez peut-être, à Venise, depuis un certain temps, les visiteurs qui vont passer une seule journée dans la cité des Doges doivent s'acquitter d'un ticket d'entrée de 5 euros.
Bon, alors il faudrait rajouter un zéro de 50 euros.
C'est vrai. Alors, en même temps.
Alors, d'abord, qu'est-ce que disent les professionnels du tourisme en 30 secondes, Olivier?
Alors, ils sont pas très contents, évidemment. Évidemment, ils disent que c'est plutôt pour remplir les caisses de l'État. C'est l'argument qui est d'ailleurs avancé par le gouvernement Meloni en Italie. Ils disent, les hôtels en Italie, par exemple, disent qu'ils ne veulent pas devenir les distributeurs de billets de banque pour les communes. Et puis. Pour autant, à Rome, où la taxe a déjà été augmentée, ou à Venise, personne n'observe une baisse du flux des touristes.
Pour l'instant, non.
C'est toujours le bon niveau pour que ce soit indolore, finalement, globalement. Donc c'est vrai que
si vous montez à 15, 20 euros, 25 euros par jour, je ne sais pas si ça va être indolore pour tout le monde très vite.
Oui, mais en fonction, si vous payez la nuit 800 ou 900 euros, puisque ça va être proportionnel
au standing. Si vous allez à l'hôtel de Russie à Rome, je pense que ça ne vous pose pas trop de problème.
Ça coûtera quelques euros.
En fonction du nombre d'étoiles, en fait, des hôtels, ils veulent moduler en fonction du nombre d'étoiles.
Bon.
C'est à peine le prix d'un perrier dans le minibar. On va pas s'affairer non plus.
Non, mais je trouve que c'est un bon moyen quand même pour lutter contre le surtourisme.
Mais bien sûr. Et accessoirement
Mais non, mais c'est quand même fascinant.
Bon, allez.
À la fois, on vous. Parce que ce qui est quand même fascinant, non, mais le cas de Venise est passionnant. C'est-à-dire que quand on vous taxe parce que vous ne venez qu'une journée, en fait, on vous taxe.
Mais c'est des gros bateaux qui débarquent, les cars.
Oui, mais l'idée, c'est qu'on vous taxe parce que vous ne bénéficiez pas à l'économie locale. Et là, on vous taxe parce que vous bénéficiez à l'économie locale.
Et voilà.
Bon, voilà. C'est quand même sans doute une affaire de gros sous.
Les temps sont durs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, on en revient toujours à la même chose. Merci à tous d'être venus ce soir. Thomas Asportas, Emmanuel Le Chypre, merci. Olivier Chiche-Portiche, merci. François Cholet, merci beaucoup, directeur général de Montségur Finance. Edwige, à demain, 18h15.
Oui, Geoffroy Roux de Bézieux. Il a fini sa cure médiatique, donc il viendra s'exprimer. C'est comme vous voulez, comme vous préférez.
Il avait disparu de la circulation.
Il avait disparu de la circulation depuis l'élection de Patrick Martin.
Il est de retour, on verra s'il est content, comme dit l'expression, demain soir, 18h15.
Engagé dans les Jeux Olympiques encore.
Absolument. 18h57, merci à tous. Dans un instant, le journal, et puis on repart en attendant l'éventuel Premier ministre ce soir, évidemment. De quoi est-ce qu'on parle? De la colère du patronat contre la possible rabot sur les aides aux entreprises, des déficits qui continuent de chuter, et bien d'autres sujets. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr, sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h dans l'actualité ce soir. Toujours pas de nom pour aller à Matignon. On attend bien sûr, alors on va continuer à vous parler économie comme tous les soirs. De quoi est-ce qu'on parle ce soir? De ce rapport qui suggère de sabrer dans les aides aux entreprises à hauteur de plusieurs milliards d'euros. Colère ce matin du patron de la CPME, on va l'écouter dans un instant. Le Sénat qui lui aussi se penche sur la dérive des déficits. On entendra le rapporteur LR de la Commission des Finances au Sénat. Et puis grosse réunion aujourd'hui chez Volkswagen avec une direction qui est sortie du bois et qui n'a pas exclu, des infos de presse le disaient déjà en début de semaine, la fermeture d'un voire de deux sites Volkswagen en Allemagne, ce qui serait une révolution total, évidemment. On parle de tout ça avec nos experts qui seront là dans un quart d'heure, bien sûr. Avec qui sera-t-on tout à l'heure? Avec l'entrepreneur Leonidas Kalogiropoulos, avec Marc Touati du cabinet ACDFI, avec l'économiste atterré Benjamin Coria. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM.
Good Evening Business, le journal.
Donc ce budget 2025 qu'on a bien compris, on va avoir toutes les peines du monde à boucler. Et ces infos qui nous disaient aujourd'hui qu'on réfléchissait à aller chercher des milliards d'euros d'économies du côté des aides aux entreprises. Scandale ce matin pour le patron de la CPME, François Asselin, sur BFM Business. Il a été très cash, écoutez.
Qui crée la richesse? C'est le secteur marchand. Et le secteur marchand, c'est qui? Ce sont les entreprises, ce sont les entrepreneurs. Hein, je vous rappelle simplement une chose. Sondage de la CPME au mois d'avril 2024, c'est récent. Vous avez 20% des entrepreneurs qui vivent avec moins de 1400 euros net par mois. Hein, ce sont ces risques tout, emmerdés par les risques rien. Les risques rien, ce ne sont pas des personnes, ce sont les normes absurdes, ce sont les règlements inapplicables. Et puis, c'est parfois une politique fiscale qui arrête toute initiative d'entreprendre. Il ne faut surtout pas décourager ceux
pas
qui ont cette...
envie, tout simplement.
Mais bien sûr, pourquoi? Parce qu'on a cette qualité, c'est qu'on est capable de prendre des risques. Et derrière le risque qu'on prend, on emmène les gens, on fait de la création de richesses, on paye des impôts, on fait de la redistribution. Donc si vous commencez à décourager ceux qui ont cette magnifique capacité de prendre des risques, eh bien il y aura point de salut pour le pays. Ça ne plaisante pas aujourd'hui.
Voilà François Asselin ce matin sur BFM Business. Faut-il faire le tri dans les aides aux entreprises? On verra ça bien sûr avec nos experts dans quelques minutes. Sinon, en attendant 2025 et le budget 2024, vous savez qu'on vous disait hier que les déficits publics pourraient être plus élevés que prévu cette année. 5,6% du PIB contre 5,1% prévu à l'origine. La commission des finances du Sénat voit rouge. Écoutez le rapporteur du budget, Jean-François Husson. Il revient sur l'urgence pour les élus de tous bords de s'attaquer à cette situation. Urgemment, écoutez.
Je pense qu'on est au bord du précipice. Donc moi, je n'ai pas envie d'amener que mon pays tombe dans le précipice. Je vous ai expliqué quels étaient nos classements en matière de dépenses publiques, de dettes publiques, de poids des impôts. Je pense que le temps n'est plus à la plaisanterie, il est à la reprise en main, au redressement des comptes. Mais je le redis, c'est un effort. Il faut souhaiter qu'on arrive à dégager une majorité sur une trajectoire à construire collectivement. Personne n'aura raison tout seul.
À Jean-François Husson, donc aujourd'hui au Sénat pour BFM Business. La situation est-elle si mauvaise que ça en France? On pose la question parce que figurez-vous qu'aujourd'hui le gouverneur de la Banque de France a dit qu'il allait relever la prévision de croissance de la France, de la croissance de l'économie française pour 2024. Il n'a pas dit quand, il n'a pas dit combien. Il l'a dit aujourd'hui au journal Le Point, en tout cas. Et puis alors, puisqu'on parle de pistes pour faire des économies, cette question, faut-il resserrer la vis sur les arrêts de travail des fonctionnaires? Si je vous pose cette question, c'est parce que d'après une note que BFM Business s'est procurée, Gabriel Attal aurait exigé qu'on se penche sur ce sujet au début d'année 2024. Caroline Morisseau.
La fonction publique n'a pas échappé à la règle. Avec la crise sanitaire, l'absentéisme a bondi. Selon les derniers chiffres, en 2022, on était en moyenne à 14 jours et demi d'absence par an et par agent. L'enjeu financier est important. Un retour au niveau d'avant-crise permettrait, selon l'inspection des finances, d'économiser 6 milliards d'euros. Pour cela, plusieurs pistes sont évoquées. Passer d'un à deux, voire trois jours de carence non indemnisée, ce qui permettrait d'économiser 174 millions d'euros pour la première option et jusqu'à 289 millions si l'on montait jusqu'à 3 jours de carence. Autre levier, ne plus rembourser 100% mais seulement 90% des salaires en cas d'arrêt maladie, ce qui correspond au taux appliqué dans le secteur privé, même si la majorité de ces salariés sont totalement pris en charge par leur employeur grâce à des accords collectifs. Une mesure qui permettrait cette fois de réaliser 900 millions d'euros pour l'ensemble de la fonction publique. Enfin, l'inspection des finances suggère de renforcer les contrôles et d'instaurer des sanctions.
Les arrêts de travail des fonctionnaires dans le viseur, Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business, 19h06 dans l'actualité des entreprises, journée houleuse chez Volkswagen. Après les rumeurs des derniers jours selon lesquelles le groupe pourrait tout simplement fermer des sites en Allemagne, la direction est sortie du silence aujourd'hui. Et elle n'est pas allée par quatre chemins. Justine Vassogne.
Nous avons un an de tout au plus pour redresser la barre. C'est le constat d'Arnaud Antlitz, le directeur financier de Volkswagen, a dû attendre plusieurs minutes avant de pouvoir s'exprimer. Face à lui, plus de 15 000 employés furieux qui ont fait entendre leur colère. Le marché automobile européen n'a jamais retrouvé son niveau d'avant Covid, a-t-il expliqué. Pour Volkswagen, cela représente 500 000 voitures en moins, l'équivalent de deux usines. Selon le directeur financier, transition vers l'électrique, concurrence chinoise, la liste est longue pour expliquer les difficultés de Volkswagen, mais la crise que traverse le groupe, qui vise un plan d'économie de plus de 10 milliards d'euros, n'est pas seulement due à un contexte de marché, selon Daniela Cavallo. La direction ne fait pas son travail, estime la présidente du très puissant comité d'entreprise de Volkswagen. Elle reproche notamment à la marque d'avoir négligé l'hybride. Elle promet une résistance acharnée. Avec moi, a-t-elle prévenu, il n'y aura pas une fermeture d'usine en Allemagne.
Voilà, en tout cas, c'est peut-être un tabou qui pourrait tomber chez Volkswagen si d'aventure la direction a évidemment décidé de fermer au moins un site sur le sol allemand. Mais ça aussi, on en parlera bien sûr avec nos experts vers 19h45 sur BFM Business. Et puis, on va partir aux États-Unis où Kamala Harris est en train de booster son programme économique. On est à 6 jours maintenant du débat contre Donald Trump. Bonsoir, Benoît Balay, vous êtes à Washington. Elle va annoncer apparemment des mesures pour faciliter la création des petites entreprises, Benoît.
Oui, la vice-présidente américaine va détailler ses propositions lors d'un déplacement dans le New Hampshire cet après-midi aux États-Unis. Et certaines grandes lignes des annonces à venir ont déjà été dévoilées par son équipe de campagne. La démocrate de 59 ans, qui se présente comme la candidate des classes moyennes, a l'intention, si elle est élue, de multiplier par 10 le crédit d'impôt à la création de petites entreprises de 5 à 50 000 dollars. C'est une mesure qui permettrait de couvrir le coût moyen de création d'une petite entreprise estimée autour de 40 000 dollars selon les équipes de Kamala Harris. Et un cap sera même fixé avec la création de 25 millions de nouvelles petites entreprises en 4 ans, soit 6 millions de plus que ce qu'a réalisé Joe Biden durant son mandat. Pour le moment toutefois, la campagne de Kamala Harris n'a pas expliqué comment seraient financées ces mesures qui devraient, quoi qu'il arrive, être approuvées par le Congrès américain. Mais ce que retiendront les Américains, c'est une promesse d'un regain de pouvoir d'achat. Ces nouvelles annonces de la candidate démocrate complètent en tout cas un premier pan de son programme économique consacré au pouvoir d'achat des familles, avec notamment un crédit d'impôt à la naissance, des mesures d'encadrement du prix des médicaments comme des denrées alimentaires et des aides pour l'accession à la propriété.
Merci beaucoup Benoît Balay, donc en direct de Washington pour BFM Business. Et puis on revient à l'actualité des entreprises, parce que figurez-vous que Danone va boycotter le Nutri-Score pour certains de ses yaourts à boire. Danone n'apprécie pas la nouvelle méthode de calcul, celle du Nutri-Score précisément. Les mesures vont rapidement entrer en vigueur. Pauline Tadevin.
Plus la peine de chercher le Nutri-Score sur les yaourts à boire de Danone, Danonino ou Actimel. Le groupe conteste le nouvel algorithme du Nutri-Score mis en place cette année, plus strict. Dans le cas des yaourts à boire, le nouvel algorithme les classe dans la catégorie boisson, si bien qu'une gourde Danonino devient moins bien notée qu'un yaourt Danonino ou qu'un Actimel écope désormais de la même note qu'un soda ou toute autre boisson sucrée au lieu d'un A ou d'un B. Illogique pour le groupe qui estime que ce nouveau Nutri-Score apporte une vision erronée de la qualité nutritionnelle des produits laitiers à boire et entraîne de la confusion auprès des consommateurs. Danone assure qu'il continue de soutenir la mise en place d'un étiquetage au niveau européen scientifiquement étayé et qu'il travaille toujours à proposer aux consommateurs des produits qui répondent le mieux à leurs besoins et qui leur permettent de se nourrir de la manière la plus équilibrée.
Pauline Tadevin, et puis c'est une décision douloureuse que subit le groupe de luxe britannique Burberry. Vous savez que sa valeur s'est littéralement effondrée en bourse depuis maintenant un an. Et bien, qu'est-ce qui a été annoncé aujourd'hui? Et bien, tout simplement que l'action Burberry allait quitter le FTSE 100, l'indice vedette de la bourse de Londres. C'est une mesure qui prendra effet à partir du 23 septembre prochain. Ça a donc été annoncé aujourd'hui, 19h10. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé aujourd'hui à la Bourse de Paris?
Pas fameux, pas terrible, moins 0,98% pour l'indice parisien, mais on tient les 7500 points. Les volumes d'échanges étaient relativement élevés, mais enfin rien d'énorme non plus, hein, au-delà des 3 milliards d'euros d'actions négociées. Mais une séance qui a été un petit peu compliquée, un petit peu difficile, surtout quand on voit les débouclages qui ont eu lieu, notamment sur le secteur du luxe. LVMH signe la plus forte baisse de l'indice parisien, moins 4,2%. À 642,60 €. Hermès, moins 3,84 € à 2081 €. Kering, moins 2,22 € de 148,50 €. Puis dans le même ordre d'idée, Pernod Ricard, moins 2%, 125,25 €. Heureusement qu'on a les valeurs défensives, les valeurs cycliques pour nous aider un petit peu. Sanofi signe la plus forte hausse de l'indice à plus 1,48 €, 105,56 €. Eurofin Scientifique, plus 1,22 € à 51,42 €. Le secteur de la santé vraiment bien entouré. Et puis des valeurs vraiment très traditionnelles, Danone plus 1%, 64,46. Orange plus 1,05 à 10,64. Donc vraiment un marché défensif, moins 0,98% pour le CAC 40. 7500 points. L'euro autour d'1,1080.
Merci beaucoup Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Évidemment, le mi-séance sur le marché américain. C'est assez calme. Le Dow Jones, c'est à l'équilibre. 40 933 points après une journée agitée, on le sait, du côté de Wall Street. L'indice Nasdaq, de son côté, qui grappille 0,14%. 17 161 points. Tout ça à la mi-séance. 19h12. Les experts arrivent dans un instant. On attend toujours le Premier ministre, mais pendant ce temps-là, les comptes publics continuent de déraper et on se dit qu'on pourrait peut-être aller chercher des milliards d'économies du côté des aides aux entreprises. Colère du patron de la CPME ce matin sur BFM Business. On parle de tout ça, plus bien autre chose, jusqu'à 20h évidemment. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h16, ils sont là comme tous les soirs, bien sûr, nos experts jusqu'à 20h pour décrypter ensemble l'actualité. Benjamin Corrier est avec nous. Benjamin, bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Professeur en sciences économiques à l'Université Paris, Sorbonne Paris-Nord, membre des économistes atterrés. Marc Toiti est avec nous. Marc, bonsoir.
Bonsoir, cher Guillaume.
Président du cabinet ACDFI, Léonidas Calogéropoulos est avec nous.
Bonsoir.
PDG de médiation et arguments, fondateur des entrepreneurs pour la République. Vous, si vous attendez le Premier ministre, vous vous lassez d'attendre petit à petit. Bernard Cazeneuve, alors je fais l'inventaire exhaustif. Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, David Lisnard, on lit le nom de Michel Barnier qui revient dans la course ce soir. Et on apprend à l'instant, sur ce matignon de nos confrères de BFM TV, que rien ne sera annoncé ce soir. Voilà.
Ouais, non, mais c'est un peu grotesque, hein, moi je trouve. Ça commence à devenir lourd. C'est quand même 50 jours sans véritable gouvernement.
Donc les marchés ne nous sanctionnent pas, Marc. Je pose la question.
Non, mais je ne parle pas des marchés, moi je parle des Français. Il n'y a pas que les marchés dans la vie. Il y a les Français.
Oh là là, c'est la punchline du soir. Elle est belle celle-là.
Il n'y a pas que les marchés dans la vie.
Vous n'y attendez pas celle-là. C'est la
rentrée.
Ça fait une belle introduction.
Les bras m'en tombent.
Non, mais c'est vrai. C'est important, mais c'est vrai quand même. Non, là, je parle par rapport à aujourd'hui. On a quand même un problème numéro un, c'est que on doit, normalement, le budget devrait déjà être ficelé.
Oui.
On doit le remettre à l'Assemblée nationale le premier mardi du mois d'octobre, donc c'est demain. Le 20 septembre, on doit présenter à la Commission européenne un projet de réduction du déficit. On n'a toujours pas de gouvernement, on ne sait pas comment on va faire. Et alors, le pompon, quand même, hier, bon, j'en parlais dans mon coup de gueule tout à l'heure, mais quand même, Bruno Le Maire qui nous dit, écoutez, ben, j'ai découvert qu'il y avait plus de budget, de déficit que prévu.
On va écouter le sénateur, le rapporteur LR au Sénat tout à l'heure.
C'est
vrai que juste à partir de là, on se dit, attendez, ça devient complètement incontrôlable. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que
les marchés ne s'emballent pas.
Non, pas que les marchés.
Je suis pas d'accord avec vous, Marc.
On a besoin. Non, moi, je parle des chefs d'entreprise aujourd'hui, que je rencontre tous les jours, qui m'appellent. Et là, c'est la rentrée. Normalement, il y a des projets qui foisonnent. On embauche des gens, etc. Et là, tout est gelé parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain.
Oui, mais imaginez,
donc,
Marc,
ça dure beaucoup trop longtemps.
Okay, alors.
Imaginez, Marc, le nouveau gouvernement, avec la situation que vous décrivez, qui est grave sur le plan des déficits, et on est un peu au bord du précipice sur cette affaire.
D'accord.
Imaginez qu'un nouveau gouvernement dise, on enterre la réforme des retraites, on va faire un choc d'impôts supplémentaires et de dépenses supplémentaires.
C'est pas ce que je demande. Hein.
Non mais, Marc, la question, elle n'est pas d'avoir un gouvernement. La question est de savoir, est-ce que l'on a un gouvernement qui est capable aujourd'hui de répondre à l'urgence qui est effectivement celle des budgets qui doit être absolument corrigé, et donc que l'on soit en train de veiller à ce que le gouvernement qui arrivera ne crée pas un désordre nouveau avec éventuellement une censure ou un autre désordre avec effectivement un emballement sur les marchés parce que on créerait encore plus de déséquilibre budgétaire que celui qui existe. Je trouve que ça vaut la peine.
Prenez votre
passer...
temps, c'est ça en gros le message de fond.
Oui, enfin, prenez votre temps pour ne pas faire d'erreur de casting.
Malheureusement, j'ai bien peur que quel que soit le casting, hein, vous l'avez bien dit, c'est un problème de programme, bien entendu. Si on a un gouvernement, on va dire NFP, etc., c'est clair que les taux d'intérêt vont flamber. Et puis, si on a un gouvernement de droite, la CGT et autres ont promis qu'il allait y avoir des blocages un peu partout. Donc, finalement, l'issue, moi, c'est ça qui m'inquiète, parce qu'à chaque fois, on sait qu'à tout ce problème, il y a sa solution. Et là, malheureusement, on ne voit pas la solution arriver.
Benjamin Coria, pour les départager, peut-être.
Oui, non, mais quand même, ce qui est très ennuyeux, c'est que moi, j'imaginais qu'on était en démocratie. Bon. Qu'il y avait eu un vote, hein, et qu'il y a eu, si on additionne les voix d'opposition, une marée contre la politique actuelle. Une marée, alors pour des motifs qui peuvent être opposés, mais une marée Bien. Et le chef de l'État qui a provoqué tout ça est le seul qui ne veut pas enregistrer ce fait. Donc oui, il va falloir une autre politique. Les Français demandent massivement une autre politique.
Je ne pense pas, Benjamin Coria, qu'il demande massivement une crise financière.
Je n'ai pas dit laquelle. J'ai dit, de toute façon, il demande un changement de politique. Donc, si on est en démocratie, il faut que le chef de l'État admette qu'il faut qu'il passe la main. Il a échoué. On est à 5-6 de déficit. On est à 3 000 milliards de dettes. Il a complètement échoué. Donc, il n'y a rien à défendre non, dans mais ce qu'il fabrique. Il perd son temps.
Pardonnez-moi.
Je suis d'accord avec Benjamin.
Oui, mais la question, si le message était clair sur une politique alternative...
Non, mais ça, c'est pas lui de le faire, lui. Il a échoué.
Alternative.
On sait ce qu'il veut. Et on sait que
la question de politique alternative n'est pas claire. Donc, il y a eu beaucoup d'oppositions. Mais il s'avère que ces oppositions, comme vous le savez, sont contradictoires les unes aux autres.
De toute façon, il doit passer la main. Il ne peut pas s'incruster comme ça.
Il y a un chef de l'État, il y a des institutions, elles fonctionnent, il va choisir un Premier ministre. C'est pas un exercice facile.
Non.
Il y a un puzzle totalement disloqué.
C'est pas à lui de le faire.
Mais si, c'est à lui de le faire.
Mais bien sûr que non. Lui, il a échoué. Non, il a déjà donné.
Alors donc vous,
ça fait six ans qu'il est là.
Faites, ayez un tout petit peu de distinction entre vos convictions politiques et l'analyse que vous faites du droit. Il doit choisir un Premier ministre.
Bah oui.
Sa fonction institutionnelle. Donc vous êtes en train de dire qu'en somme, il doit passer la main. À vous entendre,
il doit passer la main, c'est-à-dire qu'il doit nommer un Premier ministre, c'est pas à lui de faire les coalitions.
Alors, Marc,
ça, c'est pas dans la Constitution.
Mais c'est à lui de choisir le Premier ministre.
Attendez, Marc, allez-y, Marc. Oui.
Non, moi je dirais effectivement qu'aujourd'hui, on a un vrai problème, justement, de
mais
crédibilité.
Complexe.
On a un vrai problème de sérieux, finalement, et de crédibilité du président. Moi, je suis assez d'accord. Moi, je ne vois pas de solution, parce qu'il va bien sûr nommer un Premier ministre. Il va sauter peut-être dans 3 semaines. Et après, il va nommer notre Premier ministre. Il y aura une mention de censure qui va passer parce que, comme l'a dit Benjamin, effectivement, si vous faites les extrêmes ou les oppositions, ils peuvent très bien faire sauter n'importe quel gouvernement. Bon. Et donc, à partir de là, comment on va gérer? Vous imaginez l'image?
Non, mais pardonnez-moi, Marc. Donc, vous êtes en train de décrire une situation, une équation difficile. Oui. Et donc, difficile.
Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, encore à ce stade, les marchés ne s'emballent pas sur la dette française, Marc? Est-ce que c'est notre éternel arrimage, le fait que nous soyons arrimés à la zone euro, à l'Allemagne et tout y quanti, qui fait qu'aujourd'hui,
l'Allemagne ne va pas très bien non plus.
En fait, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord le fait que pour l'instant,
on en parlera de l'Allemagne tout à l'heure.
Il y a d'ailleurs plusieurs raisons. C'est que pour l'instant, c'est vrai que les pays européens, notamment l'Allemagne, ne disent rien. Ils ne viennent pas, je dirais, s'ingérer dans le débat français. Ils nous font confiance. Ils espèrent, comme Léonidas, que M. Macron va trouver la botte magique, la formule magique. Bon, et donc, tant qu'il n'y a pas cette certitude qu'il n'a pas trouvé, qu'il n'y a pas une crise politique qui dure, c'est ce qui permet au marché. Après, il y a un deuxième élément qui est international, qui est lié au mouvement américain.
Oui.
Comme, effectivement, les taux d'intérêt américains ont tendance à baisser, ça se répercute également sur les taux français. Mais quand même, on est toujours, ne l'oublions pas, à 3% de taux d'intérêt à 10 ans. On était à zéro il y a quelques années.
Oui.
Donc, ça fait quand même 54 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette l'année dernière, 60 milliards cette année, 75 milliards l'année prochaine.
Alors, en attendant, on a quand même un souci avec le budget 2025. Vous parliez du budget. Ce rapport de l'Inspection Générale des Finances qui a fuité ce matin, qui nous dit qu'on réfléchit à aller chercher plusieurs milliards d'euros d'économies du côté des aides aux entreprises, du côté des chambres de commerce et d'industrie, du côté du crédit impôt recherche, du côté des taux réduits de TVA. Écoutez la colère ce matin du patron de la CPME, François Asselin, qui a été assez cash dans ses propos. Écoutez.
Qui crée la richesse? C'est le secteur marchand. Et le secteur marchand, c'est qui? Ce sont les entreprises, ce sont les entrepreneurs. Hein, je vous rappelle simplement une chose. Sondage de la CPME au mois d'avril 2024, c'est récent. Vous avez 20% des entrepreneurs qui vivent avec moins de 1400 euros net par mois. Hein, ce sont ces risques tout, emmerdés par les risques rien. Les risques rien, ce ne sont pas des personnes, ce sont les normes absurdes, ce sont les règlements inapplicables. Et puis, c'est parfois une politique fiscale qui arrête toute initiative d'entreprendre. Il ne faut surtout pas décourager ceux
qui ont cette envie, tout simplement.
Mais bien sûr, pourquoi? Parce qu'on a cette qualité, c'est qu'on est capable de prendre des risques. Et derrière le risque qu'on prend, on emmène les gens. On fait de la création de richesses, on paye des impôts, on fait de la redistribution. Donc si vous commencez à décourager ceux qui ont cette magnifique capacité de prendre des risques, eh bien, il y aura point de salut pour le pays. Ça ne plaisante pas aujourd'hui.
Voilà, je ne voudrais pas résumer le propos de François Asselin à cette punchline que vous avez entendue, les risques tout emmerdés par les risques rien. Mais quand même, il y a une colère dans ce propos, Benjamin Coria.
Écoutez, il fait son job. Hein, je veux dire, c'est un lobbyiste, c'est le représentant...
C'est un entrepreneur.
C'est le représentant d'un lobby d'entreprise. Bon, et
PME, son PME.
Mais moi, je ne lui reproche pas. Je veux dire, c'est normal. Moi, je suis pour que les intérêts s'expriment dans ce pays et qu'on trouve des compromis. Bien. Donc, lui, il fait son job. Si, j'ai quand même deux ou trois remarques. Premièrement, oui, les entreprises créent des richesses, bien entendu, mais contrairement à ce qu'ils laissent entendre, elles ne sont pas du tout seules. Ce n'est pas du tout les seules qui créent des richesses. Qu'est-ce que feraient les entreprises, hein, sans les ingénieurs qui sont délivrés les entreprises publiques et l'éducation nationale? Que feraient les entreprises sans le système de communication hors pair qu'on a en France? Que feraient les entreprises sans la paix sociale qui est organisée par la justice? Je veux dire, s'il peut faire ça tout seul et ne pas payer d'impôts, qu'il aille au Tchad.
Mais ça, il dit pas payer les impôts.
Mais moi, je veux tordre le cou à cette idée qu'il n'y a que les entreprises qui créent de la valeur. C'est absurde. Les entreprises créent de la valeur, personne ne va discuter ça, mais elles créent de la valeur sur la base d'une valeur commune qui est créée par la collectivité et sur des impôts qui sont payés par l'ensemble. Bon, donc, ça, il faut mettre les pendules à l'heure. Alors maintenant, sur le fond, parce que il y a la question, ça c'est la forme, mais c'est quand même pas secondaire. Hein, je veux dire, cette idée que seules les entreprises créent de la valeur, c'est vraiment un truc de lobbyiste. J'ai presque envie de dire stupide.
Ça fait hurler Léonidas.
Bon, heureusement qu'il y a des économistes dans ce pays et qu'il n'y a pas que des gens d'entreprise. Non, attendez, je finis. Mon dernier mot, c'est pour dire la vraie question qui est là derrière, c'est le type de système fiscal dans lequel on est et le fait que il nous a conduit. Alors, je ne mets pas tout ça sur le dos de Macron, hein, c'est toute une histoire, hein, c'est notre système fiscal, nous a conduit aujourd'hui dans une impasse, et que la question douloureuse qui est posée, c'est qu'il va falloir le retoucher, il va falloir le revoir, pour revenir vers des équilibres de soutenabilité de l'économie française, sans créer des charges insupportables.
Léonidas,
mais la vraie question, c'est celle-là.
Je voudrais juste apporter un point de synthèse avec ce que vient de dire Benjamin Coria, ce qu'a dit le président de la CPME, c'est pas qu'il y avait que les entrepreneurs qui faisaient des choses utiles et que tout le reste était inutile. Il a bien dit qu'on payait des impôts, et avec les impôts que l'on paye, il y a
effectivement... Il y en a d'autres qui payent des impôts.
Non, mais il y en a d'autres, mais enfin, avec ces impôts et avec cette richesse créée, il y a du collectif, et cette collectivité, c'est un pays, et personne n'a dit que l'on pouvait entreprendre en dehors d'une société et en dehors de pays. On n'a jamais plaidé... Au contraire, on est favorable à ce qui est cohésion. D'ailleurs, on est un certain nombre à considérer qu'il y a une très belle nation en miniature, ce sont nos entreprises, dans lesquelles on crée ensemble, dans lesquelles on fédère des gens qui viennent d'horizons différents, et effectivement, c'est une petite nation en miniature. Sur les richesses que l'on crée, elles ne sont à l'évidence pas suffisantes, c'est une des grandes raisons pour lesquelles l'équation de la politique qui a été menée n'est pas une équation qui est gagnante aujourd'hui. En revanche, on a essayé de soutenir les entreprises. Globalement, ça a été une politique de l'offre. Et quel a été le facteur manquant? C'est que cette politique de l'offre aurait dû conduire à avoir beaucoup plus de recettes, parce qu'on avait plus d'emplois et on aurait dû avoir plus de consommation. Et où est-ce que le bât blesse?
Référence au ruissellement, Léonidas?
Oui, où est-ce que le bât blesse? Où est-ce que le bât blesse?
Sûr qu'il allait...
Le bât blesse dans le fait qu'on a une productivité. On a une productivité qui est en berne. Et l'une des raisons pour lesquelles on a une productivité qui est en berne, c'est une véritable crise nationale, c'est que le travail ne paye pas suffisamment. C'est peut-être un sujet sur lequel on reviendra.
On en reviendra dans un instant. Marc Toiti, sur ces aides aux entreprises. Il a raison, colère saine du patron de la CPME qui dit, il y a effectivement ce coup de rabot qui se profile peut-être, nous sommes déjà en déséquilibre compétitif par rapport à l'Allemagne, les impôts de production et tout.
Encore une fois, effectivement, on crée tous de la richesse, collectivement, bien entendu.
Nous aussi, ici, sur le plateau,
c'est vrai que des fois, il y a des empêcheurs de tourner en rond, il faut reconnaître aussi. Mais le vrai problème aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est que quand je vois les chiffres de la Banque de France, des défaillances d'entreprises en France, c'est une catastrophe. Et c'est pas que les micro-entreprises, c'est les PME. Et si vous regardez les entreprises hors micro-entreprises, eh bien, on est sur une hausse des défaillances d'entreprises de 122% depuis 2019. Donc c'est ça, moi, qui aujourd'hui m'inquiète. Alors, on a même les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, dont les faillites également sont en train d'exploser. Et derrière, c'est quoi ? Ben derrière, il y a des salariés. Derrière, il y a des familles. Donc là, on est en train de prendre un risque de crise sociale et sociétale qui est incroyable. Parce que justement, on est tous dans le même bateau. C'est pas les uns contre les autres. Si demain, les entreprises font faillite, eh bien, les salariés n'auront pas de boulot, ils seront au chômage, et il n'y aura pas de consommation, et ainsi de suite.
Marc, donc, on est quand même en train de créer des emplois.
Je termine. Ce qui est très dangereux aujourd'hui, c'est qu'on a cette situation où, malheureusement, si demain, parce que ça va déjà pas, c'est pas génial, si en plus demain les taux d'intérêt augmentent, tous les taux de crédit vont augmenter, donc ça va casser l'investissement, la consommation, donc la récession va revenir, va s'installer, et c'est ça qui aujourd'hui est très inquiétant. Qui nous a mis là-dedans ? Encore une fois, il faut être honnête, faut se dire les choses. C'est la fuite en avant que nous avons fait ces dernières années. Moi, je n'ai pas arrêté de me battre, au sens verbal du terme, bien sûr, avec nos dirigeants pour leur dire, notamment Bruno Le Maire, je dis, il faut arrêter d'augmenter cette dette publique. Et on me riait au nez, on dit, mais non, c'est tombé. Moi, ça fait 8 mois que j'annonce que le déficit public va être de 6% cette année. Ici eux-mêmes, on me riait au nez. Bon, ben, je ne vous en veux pas.
Parce que, bon, vous riponnez parce que non, les chiffres vous donnent raison.
Non, mais pendant la période où je le disais, on me dit, non, ce n'est pas possible, bon. il va être réduit. La France est le seul pays aujourd'hui de la zone euro où le déficit public augmente.
Oui.
Ce qui est bien, et c'est bien qu'il y a un problème. Alors hier, si on avait une croissance forte, on pourrait dire c'est pas grave, mais ce n'est pas le cas. Donc,
oui, mais pardonnez-moi, Marc, je pense que c'est intéressant de faire le diagnostic de pourquoi est-ce que l'emploi augmente et la croissance n'augmente pas.
Vous avez vu, l'emploi n'augmente pas. Dernier trimestre,
l'emploi, et deuxièmement,
l'emploi
n'augmente
plus, le chômage un petit peu, mais
de l'emploi français, c'est le deuxième plus mauvais en Europe.
Ah oui.
D'accord. Non, mais... Bon, donc, c'est l'emploi reculé en Europe et la France, et en France, moins que dans le reste de l'Europe. C'est ça la réalité.
Allez, voilà pour la situation de la France.
Un taux d'emploi qui n'a jamais été aussi élevé depuis 15 ans.
19h31 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h35, ils sont là comme tous les soirs, nos experts évidemment, jusqu'à 20h pour refaire l'actualité ensemble. Benjamin Coria est avec nous, Marc Toitier est avec nous, Leonidas Kalogiropoulos est avec nous, on va parler de l'Allemagne dans un instant. Juste un mot, parce que alors, ça s'est un petit peu excité sur les marchés hier soir, dégringolade de 2,5% du Nasdaq, 3% à la clôture, et une déroute pour Nvidia qui a perdu 10% parce que nous dit-on, alors il y a une enquête apparemment du département américain de la justice, mais des inquiétudes de plus en plus fortes autour de l'intelligence artificielle. Pas des inquiétudes, mais des questions. Quel créneau? Quel délai? Quel cas d'usage? Quand? Comment? Est-ce qu'il y a une bulle sur l'IA aujourd'hui, Marc, pour vous, finalement?
Évidemment. C'est le propre de toutes les révolutions technologiques. À chaque fois qu'on a une révolution technologique, comme on ne sait pas valoriser...
Mais là, celle-là, on avait l'impression qu'elle allait beaucoup plus vite que les autres, finalement.
Il y a deux problèmes. Il y a effectivement, je pense, une exagération, je dirais, du chiffre d'affaires, des profits. Il y a aussi un problème de gouvernance, parce que la société a grossi extrêmement vite. Et donc après, il faut évidemment gérer. Et donc, là, ne sont pas forcément, je dirais... faut être honnête, le cours a augmenté de 3000%.
Oui, alors c'est bien.
Depuis 2019.
Depuis 2022, le cours c'est 1000% depuis le point bas d'octobre 2020.
Oui, mais depuis 2019, c'est 3000%.
Ça, c'est la clairvoyance des...
Que ça baisse un petit peu de 10%, c'est pas forcément un mal. C'est un petit peu logique. Après, maintenant, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est on va voir les résultats de demain. C'est-à-dire que... Bon. Parce que si c'est juste un dégonflement de bulle, ça irait encore. Si, par contre, on voit qu'il y a des pertes ou qu'il y a une mauvaise gouvernance, là, ça peut être plus problématique. Donc, moi, je pense que... c'est ma grande crainte pour les marchés boursiers dans les prochains mois. À chaque fois, comment une révolution... Enfin, une bulle technologique ou bulle boursière, elle éclate quand il y a une grande boîte qui fait faillite. Alors, je ne parle pas d'Nvidia, j'espère pas pour eux. Hein,
non.
Mais peut-être qu'il y a...
Ils n'en disent pas incontournable quand même sur l'IA aujourd'hui.
Oui, voilà, peut-être, mais attention. Encore une fois, le business model n'est pas clair.
Oui.
Et peut-être qu'on a un petit peu exagéré l'impact de l'IA et surtout les bénéfices qu'on va en tirer. Parce que c'est ça également l'enjeu. Mmh. Donc, c'est un petit peu logique ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est surprenant, c'est que vous savez, donc la Réserve fédérale américaine,
oui,
depuis quelques jours, enfin quelques semaines même, elle dit qu'elle va baisser les taux d'intérêt. C'est très bizarre, parce que l'inflation, elle est toujours à 2,9%, donc contre un objectif de 2% pour la Réserve fédérale. Et elle nous dit, oui, il y a un risque de récession. Vous regardez les chiffres, encore tout à l'heure, les chiffres des directeurs d'achat sont très bons. Comprenez ? Donc, il y a encore 3% de croissance aux États-Unis. Elle est où, la récession ? Et si la Fed dit qu'elle va baisser les taux, c'est que je pense qu'elle a une information que nous n'avons pas. Et moi je pense que c'est ça. Si vous vous souvenez bien, on a vécu exactement la même chose en février 2020.
Ouais.
C'était le début du corona, mais on savait pas ce que c'était encore.
Mais là vous partez dans un truc, Marc.
C'est logique, c'est logique, c'est normal. On n'a pas toutes les informations.
Oui, bien sûr.
Et donc la Réserve fédérale, comme par hasard en février 2020, si vous vous souvenez, elle a baissé de 50 points de base les taux d'intérêt. Personne s'y attendait. Et quelques semaines plus tard, on a compris pourquoi, si vous voulez. Alors après, bon, elle a continué. Donc je pense qu'aujourd'hui, alors j'espère pas que ça va arriver, mais il y a certainement peut-être une entreprise, peut-être une banque, on ne sait pas, qui a des difficultés. Et donc, évidemment, elle préfère, je dirais, anticiper et baisser le taux d'intérêt.
Mais l'argument
qui est de dire il y a une récession aux États-Unis, je baisse les taux, c'est pas vrai, il n'y a pas de récession. Et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que quand la Fed dit je vais baisser les taux, normalement les marchés sont contents.
Oui.
Les marchés boostent.
Oui.
Donc là, plus la Fed dit je vais baisser les taux, plus les marchés s'inquiètent. C'est que, globalement, il y a quand même des grandes difficultés.
Les fondamentaux sont là. Non, 30 secondes sur l'IA, même question. Est-ce qu'il y a une bulle, Léonidas? Et puis je vous pose la question aussi.
Oui, mais moi, ce qui m'inquiéterait, c'est que ça ne soit pas une bulle et que l'IA vienne vraiment siphonner les revenus de la presse, des médias, de quantité de secteurs.
Mais est-ce qu'il y a une
bulle? Ça m'inquiéterait véritablement. Je préfère à la limite que ce soit une bulle plutôt que.
Est-ce qu'il y a une bulle? Oui, bien sûr qu'il y a une bulle, comme à chaque fois qu'il y a. Un breakthrough technologique. Les marchés financiers ne savent absolument pas évaluer. Par contre, c'est une opportunité de spéculation et on est en plein dedans. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que à moyen ou à long terme, l'IA ne va pas avoir des effets extrêmement profonds. C'est pas du tout contradictoire.
Non, simplement, vous avez raison.
On est au début et au début.
Au début, on sait pas.
Comme la bulle d'Internet. Hein,
la question,
ça a changé le monde, mais
la question qui se pose, c'est combien de temps ça va prendre pour que les revenus correspondant aux dépenses actuellement nécessaires pour construire les infrastructures de l'IA, combien de temps ça va prendre pour qu'il y ait des revenus en face?
Et je vais vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir.
C'est quel coût ça va avoir
et quel modèle économique. Et de ce point de vue-là, je suis certain qu'on se retrouvera.
Mais l'IA est là pour rester. Bon, ça c'est clair.
Je vous le dis, je pense que la réglementation peut avoir des véritables vertus pour les entrepreneurs.
Oui.
Contrairement à l'idée que vous pourriez vous faire d'un libéral qui est favorable à l'esprit d'entreprendre. Moi, je crois que la régulation peut être vertueuse à l'esprit d'entreprendre, comme un certain économiste sud-américain dont j'oublie soudain le nom. Mais en tous les cas, nous avons besoin de régulation sur l'IA et sur le modèle économique, sinon ça peut siphonner la totalité du monde des médias.
Bien, on voulait parler un petit peu de l'Allemagne. Où va l'Allemagne? Alors, on dira un mot dans un instant de ce qui s'est joué dans les lenders d'ex-RDA dimanche dernier, bien sûr, la percée de l'AFD. Mais l'Allemagne également déboussolée par ce qui se passe chez Volkswagen. Grosse réunion, on le disait aujourd'hui, entre la direction et les syndicats. Vous savez qu'il est question désormais, c'est plus un tabou. Le directeur financier a dit qu'il n'excluait pas cette hypothèse de fermer au moins un site de Volkswagen. Et possible levée de l'accord sur la protection des emplois. C'est un accord qui court en principe jusqu'en 2029. La situation est extrêmement tendue. Ne peut être résolue par de simples mesures de réduction des coûts.
Ça fait peur.
Il y a un marché automobile mature, effectivement, concurrent chinois, c'est tout. Mais c'est l'Allemagne.
Oui, c'est l'Allemagne. Enfin, on regarde notre pays qui est agité par des crises. Enfin, je pense que c'est effectivement toute l'Europe qui l'est. Là, c'est d'autant plus problématique pour Volkswagen qu'ils ont effectivement un modèle de gouvernance qui est très compliqué. Ouais. Parce qu'une entreprise, j'allais dire lambda, elle aurait ses actionnaires capitalistiques qui prendraient des décisions. Là, il y a une sorte de cogestion qui est organisée avec les syndicats, avec les lenders également. Ouais. Et donc, la capacité de l'entreprise à faire face à ces mouvements tectoniques et qui sont aussi l'effet des décisions prises par l'Europe sur la voiture électrique, tout ça mis bout à bout, ça met une entreprise comme Volkswagen vraiment en difficulté. Enfin, il n'y a aucun pays aujourd'hui qui est à l'abri des turbulences que nous sommes en train de traverser. Ils l'ont tant sur le plan économique que sur le plan politique, leur situation n'est pas très éloignée de la nôtre.
300 000 emplois en Allemagne, Volkswagen aujourd'hui.
Non, mais deux ou trois choses. Bon, d'abord, l'Allemagne paye sa politique. Ça veut dire qu'elle a poussé de toutes ses forces pour retarder au maximum le passage à l'électrique. Elle a imaginé qu'elle
n'a pas encore perdu.
Et d'ailleurs, elle pense qu'elle n'a pas encore perdu. Que de toute évidence, on ne va pas nécessairement passer au tout électrique, mais au moins à l'hybride. Bon, et ça, l'Europe l'a pas vu. Et l'a pas vu aussi à cause des Allemands, hein, parce que je veux dire, ils ont joué sur le tout ou rien. Ça c'est la première chose. Donc, ils payent à la fois leur conservatisme et leur cécité, si on peut dire. Bon, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Volkswagen, c'est compliqué. C'est quatre marques, hein, dont certaines
c'est dix.
Dont certaines se portent extrêmement bien. Porsche, machin, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a toute sorte de difficultés. Hein. Il y a la montée de l'électrique en Chine, il y a les difficultés sur le marché intérieur européen, il y a la situation d'Allemagne elle-même. Oui. Mais moi, je vais vous dire une chose. Aussi, en préparant la discussion de ce soir, hein, puisque j'ai fait mon devoir à la maison, comme dirait l'autre, hein, j'ai fait mon hop job, je suis tombé sur un truc qui m'a alerté. Et ce truc, c'est quand même l'usine nouvelle, c'est pas moi. Hein. Et donc, l'usine nouvelle dit la rentabilité, la marge du groupe aujourd'hui est de 2003 et on compte passer à 2,3% et on compte passer à 6,5% en 2026. Alors ceci explique peut-être cela.
Non, mais on vend du rêve.
Je vous cache pas que j'ai été très troublé par ça. Donc je veux dire, je ne nie pas hein, qu'il y a des difficultés des environnements. Mais si en plus on entend tripler la marge en quelques années, alors il va y avoir des problèmes.
Parce qu'on fait le pari qu'on passera pas au tout électrique en 2035, c'est le pari.
Mais je pense qu'on peut fermer le dossier. Oui, d'autant que l'hybride va s'imposer face à l'électrique. En tout cas, moi j'ai toujours pensé ça. Et ce qui est en train de se
passer, les chiffres le
montrent. Ce qui est en train de se passer me démontre pas. Marc Toiti est équipé en hybride, moi, par exemple.
Vous avez fait, voilà. Vous voyez, très bien. Marc Toiti.
Moi, je pense que effectivement, ce qui m'inquiète, c'est l'Allemagne au sens large. C'est-à-dire que bon, Volkswagen, encore une fois, il y a cette co-gestion. Donc, je me rappelle en 2002, quand il y avait effectivement les réformes allemandes à l'époque, et que on avait eu un accord avec les syndicats justement chez Volkswagen, justement pour un gel des salaires temporaires. Après, ils avaient réaugmenté quand l'Allemagne allait mieux, ils ont augmenté les primes, etc. Donc, bon, la rentabilité, c'est un peu de la poudre aux yeux pour justement faire croire. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est l'économie allemande aujourd'hui. Parce que c'est quand même, ne l'oublions pas, 33% du PIB de la zone euro. C'est la locomotive de la zone euro. L'Allemagne est en récession. Alors, il y a également un élément qu'on a oublié de signaler, c'est l'arrêt du nucléaire. Il ne faut pas l'oublier. C'est le fait, justement, qu'on a également compté beaucoup sur la Chine. Or, la Chine est en train de s'effondrer.
Mais c'est un pays qui est en train de souffrir. Toutes ces certitudes chamboulées en l'espace. L'enfance, l'énergie, le commerce extérieur.
Exactement. Donc, il faut le vieillissement de la population.
Et le vieillissement de la population.
Donc, il faut qu'ils se repensent. Mais moi, je leur fais confiance. Par contre, ce qui me gêne, c'est quand aujourd'hui, je vois certains qui se réjouissent un petit peu des mots allemands en disant « Ah, vous voyez, chez nous, c'est pire en Allemagne que chez nous. » Ça, c'est pas bon signe.
On peut se dire qu'il y a des turbulences.
Non, mais j'ai entendu certains.
Toute la zone euro est traversée par les turbulences.
Ce que je veux dire par là, c'est que si l'Allemagne va mal, n'oublions pas qu'il y aura des impacts chez nous d'un point de vue économique, mais aussi politique. Parce que l'Allemagne, justement, et c'est un pays qui a fait énormément d'efforts, notamment d'un point de vue budgétaire. Ils ont des excédents budgétaires de 2007 à 2019, donc c'est quand même 2012 à 2019 exactement, 7 ans. Ils ont aujourd'hui 1,5% de déficit public, alors que nous, voilà, on va aller vers 6%. Et donc, c'est dangereux parce que les Allemands, ils sont plus prêts à avaler des couleuvres. Et donc, le fait qu'ils aillent mal, quand ils allaient bien, les Français dérapent, c'est pas grave. Que là, aujourd'hui, moi, je suis inquiet pour la stabilité de la zone euro. Et donc, je crains une sorte de crise politique au sein de la zone euro entre les pays qui ont tenu leurs engagements, par exemple l'Allemagne, mais qui souffrent, et les autres pays qui veulent pas tenir leurs engagements, notamment la France. Et là, ça peut faire mal à la crédibilité de la zone euro.
Tout cela à un an des élections législatives, tout ça dans ce contexte qu'on voulait donc décrire, ce qui s'est passé dimanche dernier en Saxe et en Thuringe, de l'Ender d'ex-RDA, l'AFD qui arrive en tête en Thuringe, qui talonne les conservateurs en Saxe, ça nous dit quoi du positionnement de l'Allemagne dans les prochains mois finalement ? Et de son futur rapport à l'Europe peut-être, tout ça ?
Non, mais alors c'est pour le moment circonscrit principalement dans les Länder de l'Est de l'Allemagne, et c'est vrai que c'est aussi la réunification qui n'a pas véritablement bien réussi encore. Hein. C'est un élément qui est fondamental dans la compréhension de ce qui est en train de se passer. Mais ça montre aussi que...
Ce parti n'a que 10 ans d'existence, attention.
Non, mais j'entends bien. Et puis, on est dans des phénomènes qui sont assez similaires à ceux que nous connaissons également. Il y a une réaction face à l'immigration. Il y a un certain nombre de transformations de la société qui sont regardées à l'ouest comme étant naturelles et regardées comme étant assez étonnant à l'est. Et finalement, on a une sorte de problème culturel dans l'identité européenne. On parle souvent de l'identité française. Je pense qu'à l'évidence, c'est quelque chose qui frappe l'Europe dans son intégralité. On a des repères qui doivent être véritablement redéfinis. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça impacte aussi tout notre environnement économique. On ne va pas pouvoir faire l'économie justement de traiter ces questions-là, parce que ça chamboule véritablement l'environnement dans lequel les entreprises doivent se développer. Et nous, entrepreneurs, nous avons probablement un rôle aussi à jouer, et on ne peut pas laisser ces sujets qui sont souvent laissés en jachère uniquement aux politiques qui ont du mal à les traiter.
En attendant,
Pardon, mais nous, on les traite dans nos entreprises. Nous, toutes les diversités, elles sont réunies dans nos entreprises. Et vous savez, ce qui les réunit, c'est d'avoir un projet commun. Et c'est probablement ce qui fragilise le plus nos démocraties aujourd'hui, c'est d'avoir du mal à donner à nos nations et à l'Europe un projet commun.
Bon, l'Allemagne, à un an des élections législatives, dans ce marasme, cette configuration macroéconomique, dans ce contexte ô combien tendu sur le plan politique, ça nous dit quoi de l'attitude des Allemands vis-à-vis du reste de l'Europe, finalement?
Oui, non, mais deux choses. Moi, je voudrais juste revenir sur l'AFD. Bon, alors, comme tout le monde, évidemment, je suis très inquiet. Maintenant, ce qu'il faut quand même dire, c'est deux choses. Premièrement, les États concernés, donc la Saxe et le Thuringe, ça fait jamais que 7% de l'électorat allemand.
Oui.
Hein.
Oui,
donc, je veux dire, c'est qu'on est quand même à petite
échelle. Vous avez une autre élection qui arrive dans le Brandebourg, hein, prochainement.
Mais je ne veux pas du tout sous-estimer le fait. Je dis que pour le moment, on est sur un échantillon relativement faible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que paradoxalement, il ne semble pas que ça soit d'abord économique. Ça veut dire que finalement, des grands investissements de grandes entreprises se sont faits en Allemagne de l'Est.
Oui, mais vous commencez à entendre des patrons et des investisseurs disent on va prendre nos clics et nos claques quand on voit les scores de l'AFD, voilà, dans ces Excellenders. Voilà. C'est peut-être maintenant que les choses peuvent commencer à dégénérer.
Moi, j'aimerais bien, je vais vous dire, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient si... quand on regarde où est-ce qu'ils vont, ils ne vont pas dans les pays qui sont nécessairement les plus démocratiques. Bon, la seule chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, bon... Il y a des études de politistes, de sociologues, etc., qui disent que c'est d'abord une enclousse mal faite, hein, que c'est d'abord politique et que c'est... Parce que, encore une fois, l'économie a fini par suivre. Les investissements sont quand même venus. Mais par contre, tout ce qui est les modes de vie, les valeurs, etc., les gens ont subi un choc trop violent, trop fort, et ça, le mode de vie... Ah non, mais c'est ça qui ressort.
Ça, c'est pas fait.
Ça, c'est politique. Hein.
Depuis qu'on instaure un SMIC en Allemagne, c'est quoi? C'est 3-4 ans, un truc comme ça, non?
Oui, enfin, en tous les cas, c'est vrai qu'il y a...
L'économie a suivi. L'économie a suivi.
Non, mais là, n'oublions pas qu'il y a un marasme en Allemagne d'un point de vue économique, social, et donc c'est ça qui fait monter le mécontentement global.
Mais je voudrais quand même, pour finir, dire une troisième chose qui a à voir avec la France, c'est qu'au moins, en Allemagne, ils savent faire des coalitions.
Ah oui, ça c'est clair.
Ça veut dire que c'est lié d'ailleurs au mode de scrutin et à la proportionnelle. C'est-à-dire les gens avancent leur programme de manière absolument ouverte, complète, machin, etc. Et puis ensuite, au moment des coalitions, ils sont bien obligés de négocier. Et c'est vrai que dans le cas de la France, on introduirait la proportionnelle, on n'aurait pas le même genre de problème.
Vous savez combien ça prend, les discussions de coalition lorsque...
Oui, ça prend plusieurs mois, bien sûr.
Je pense que c'est curieusement ce qui est en train de se faire.
Oui, ça fait. Il va peut-être devoir apprendre à faire aussi. Voilà.
Et voilà, je voulais dire ça.
Alors voilà, message à bon entendeur. Allez, 19h51, l'extra time, vos avis du soir sur 30 secondes chacun. Vous vouliez parler de la TVA sociale, on va peut-être pouvoir en dire un mot sur 30 secondes, Léonidas. Plaidoyer pour la TVA sociale de Léonidas.
Oui, volontiers. Écoutez, je voulais juste refaire un focus, c'était dans une tribune des Échos ce lundi, sur la charge absolument colossale des charges sociales et patronales qui pèsent sur le travail, et qu'il faut que le travail ne paye plus. Et c'est pas uniquement une question de pouvoir d'achat. C'est pas juste la question, est-ce que oui ou non on boucle ces fins de mois, comme on peut le dire au moment du crise inflationniste. C'est que globalement, on ne se projette plus dans son travail. Ça explique en grande partie la faible productivité, l'absentéisme, tous les emplois qui ne sont pas pourvus. Et la TVA sociale, c'est peut-être une manière de trouver une nouvelle ressource pour ne pas peser à ce point sur le travail et réenchanter le travail dans notre pays.
On ne sera pas d'accord avec ça, mais on n'a pas le temps d'ouvrir ce débat. On le fera une autre fois, je vous le promets. Marc Toiti, 30 secondes, Marc, c'est à vous. On vous écoute.
Moi, c'est un petit coup de gueule, évidemment, par rapport au déficit public. Encore une fois, alors c'est un coup de cœur pour ceux qui ont suivi mes prévisions, parce que ça fait 8 mois que j'annonce ça un peu seul contre tous. Et c'est vrai que c'est un peu dur quand on se
rend dans lui,
vous êtes trop pessimiste, etc. Puis quand on voit que Bercy annonce la même chose, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est la suite, parce qu'on n'a pas tellement parlé. Dans la note justement du Trésor, il annonce une explosion du déficit, pas seulement pour 2024, pour 2025 et 2026. Et ça justement, c'est pour ceux qui nous disent la dette ça coûte rien. Oui, parce que non, la dette, la charge
intérieure de
la dette
explose. Plus.
Et donc c'est ça qui fait que le déficit va de plus en plus exploser demain. Et là, malheureusement, le déficit est devenu incontrôlable et c'est quand même très triste.
Eh ben, on attend de voir si ce qu'on dira à Bruxelles le 20 septembre et si on est en mesure de dire quelque chose à Bruxelles, exactement. Trajectoire de réduction des dettes et des déficits. Benjamin Coria, 30 secondes.
Ça va aller vite. En fait, c'est un coup de cœur pour la démocratie et l'égalité, mais là, ça prend un coup de gueule contre la French Tech, parce que je viens de lire dans les journaux comme vous que seuls 15% hein, des start-up françaises ont déclaré leurs comptes sociaux. C'est-à-dire que c'est dans la non-transparence complète.
Alors, c'est pas les
ce sont des bébés gavés, ce sont des enfants chéris, et de surcroît, ils ne respectent même pas la loi. Ils ne la respectent pas parce que ça leur coûte 1 500 € par an. C'est une honte, et c'est l'indication qu'il faut vraiment changer tout
ne
ça.
Ne lancez pas Léonidas là-dessus, c'est comme la TVA.
Non. Parce que c'est un vrai sujet, hein, le fait de publier ses comptes. C'est aussi se rendre fragile face à des prédateurs.
On en fera d'autres, vous inquiétez pas, on en fera d'autres. Allez, c'est terminé. Merci messieurs d'être venus ce soir. Léonidas Kalogiropoulos, PDG de Médiation et Argument, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Marc Touati, président du cabinet AC Défi. Et Benjamin Coria, professeur en sciences éco à l'université Sorbonne Paris-Nord. Merci messieurs, à très vite avec plaisir, 19h54. Je vous redonne les grands titres de l'actualité. Donc pas d'annonce ce soir de Premier ministre, c'est désormais officiel alors que beaucoup de noms ont circulé aujourd'hui encore, ceux de Xavier Bertrand, de Bernard Cazeneuve, de David Lisnard et même de Michel Barnier qui est revenu dans la course lui aussi ce soir. A priori, ça sera pour demain, mais on espère. Le coup de colère ce matin du patron de la CPME, François Asselin, sur BFM Business, vous savez, après la divulgation de ce rapport qui suggère de sabrer à hauteur de plusieurs milliards d'euros dans les aides aux entreprises. Qui crée de la richesse en France? Ce sont les entreprises, a dit François Asselin ce matin sur BFM Business. Et puis la direction de Volkswagen qui est sortie du bois après les rumeurs de ces derniers jours selon lesquelles le groupe envisagerait de fermer des usines en Allemagne. Le directeur financier n'a pas démenti cette possibilité. Nous avons 1 voire 2 ans pour redresser la barre. C'est ce qu'il a déclaré devant quelques 16 000 salariés du groupe. 19h55, on se retrouve demain, 18h pour Nouvelles Aventures. Tech & Co, François Sorel et toute l'équipe dans un instant. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.